Bonjour à tous. Effectivement, donc on va regarder ce matin sur deux exemples particuliers du décalage des normes sur lequel Serge avait souhaité insister dans la constitution de ce programme, mettre en valeur la façon dont, sur le plan psychologique pour son intervention, comme sur le plan physiologique pour l'intervention de Martine, on voit petit à petit s'enclencher des changements de regard, des changements d'interrogation et des processus, des institutions et des mises en route d'un certain nombre de programmes qui vont petit à petit apporter des données, apporter des informations de plus en plus précises sur le contexte psychopathologique, sur le contexte physiopathologique du sport en général et du sport de haut niveau en particulier. En tant que directeur de l'IRMES, effectivement, on a mis en place dans ce cadre-là et sur lequel Serge s'était penché depuis de très nombreuses années avec la création du CAPS notamment, on a vu se mettre en place et on a pu, sur un institut au centre d'un réseau national auquel nombre d'entre vous participent, mettre en place un certain nombre de recueils de données, de physiologie, de psychologie. Vous en avez sur le poster qu'on a mis en place ce matin la première synthèse, la première analyse au niveau des 500 premiers brillants psychologiques des sportifs de haut niveau. Et là encore, je vous remercie collectivement de nous avoir adressé l'ensemble de ces fiches résumées qui permettent de nourrir un petit peu cette réflexion qui s'adresse à tous. Et sur lequel, donc, par rapport à cette orientation, Serge va nous présenter maintenant l'évolution de ces normes, l'évolution de ces concepts et la façon dont lui souhaite voir avancer cette réflexion à l'avenir.
Pas du tout, mais merci Jean-François. C'est une introduction. C'est pas du tout ça. En introduction d'abord, j'ai entendu ça et là hier... des commentaires sur les propos que j'ai tenus, c'est-à-dire que j'avais mes deux meilleurs amis qui avaient mal tourné à propos des difficultés de la reconversion, un ministre et un animateur radio. Je ne m'exonère pas des difficultés de reconversion, puisque je suis le pire de tous, dans la mesure où j'ai, moi, tout simplement, créé un service médical pour s'occuper de mes problèmes, le CAPS, qui me prend en charge depuis 8 ans et qui m'évite des frais médicaux astronomiques. Donc, je suis le pire de tous. J'ai préparé une présentation qui est plutôt une forme d'interrogation que je vous soumets et qui, j'espère, suscitera des questions et des réponses, parce que j'en ai besoin. C'est une réflexion qui vraiment est une réflexion qui naît du terrain, de notre expérience de terrain depuis maintenant 8 ans. On se pose énormément de questions, j'y on l'équipe du CAPS, sur, comme tous ceux qui travaillent dans ce champ-là, un champ particulier parce que c'est un champ où la demande de soins, donc le champ c'est la psychopathologie sportive, où la demande de soins est quasi inexistante, elle l'était en tout cas, je crois qu'elle l'est toujours. C'est un travail permanent, à la fois pédagogique, militant, clinique évidemment, une espèce d'énergie tout feu, tout flamme du début où on arrivait, où j'arrivais, je vais pas mouiller l'équipe, j'arrivais avec des idées fortes, préétablies, vigoureuses sur ce qu'il devait être fait, ce qu'il pouvait être fait, ce que nous devions faire. Alors l'âge étant, la vigueur diminue, la raideur aussi, donc les choses sont un peu plus molles. Il y va aussi des idées. Et donc, c'est vrai qu'au bout de 8 ans, c'est la deuxième partie de la phrase, impact du soin. Il y a l'impact sur le soin de cette culture de la normalité, mais il y a l'impact du soin aussi. Et ça nourrit beaucoup d'interrogations chez moi, en tout cas, tout en remettant pas en cause la démarche. Mais en tout cas, ça lui met une petite lumière particulière. Donc voilà, c'était le thème évidemment général de ces journées, cette culture de la normalité dans le monde sportif. On l'a dit et redit, on l'a entendu dans nombre d'interventions depuis hier. C'est un milieu qui, comme d'autres milieux, on a parlé de la musique, on a parlé de l'armée, on a parlé de toutes ces sociétés de toutes ces identités groupales qui sécrètent leurs propres normes, qui, en ce qui nous concerne dans le champ médical, sécrètent aussi son propre schéma de santé, c'est-à-dire il y a des seuils de tolérance de certaines choses qui sont mises en place, qui sont en décalage, en infra-décalage, en supra-décalage par rapport aux normes générales, on va dire. Donc, on l'a dit et redit. Évidemment, mais en tant que professionnel de santé, ça a un impact sur la prise en charge sanitaire, on va le voir, sur la reconnaissance du trouble, sur l'expression du trouble, sur la façon de prendre en charge le trouble, sur la façon d'être prise en charge quand on est athlète. Et je crois, c'est donc cette interrogation qui va rester ouverte, je pense que la prise en charge a évidemment aussi un impact sur ces représentations, certaines positives, d'autres peut-être un peu moins. Alors là, c'est une espèce d'inventaire à la Prévert. J'ai jeté ça sur l'ordinateur parce que la liste pourrait être évidemment beaucoup plus longue et elle est très personnelle. Les exemples un peu de représentation qu'on a dans cette micro-société sportive ou ces micro-sociétés sportives, tant aussi que chaque sport a sa culture, ses croyances, ses magies. L'alimentation, ça a été dit aussi hier, c'est évidemment un sujet qui est extrêmement magique chez le sportif, et ça depuis des millénaires. On ne va pas refaire l'histoire sur l'idée qu'ingérer quelque chose peut donner des qualités. Ingérer de la viande d'antilope fait courir vite, du sang de taureau rend fort, des testicules de taureau rend vigoureux, ça s'est fait depuis des milliers d'années. Donc l'ingesta donne des pouvoirs. Et quand je dis jambon d'Yorck et des fêtes, c'est juste pour vous raconter une petite anecdote personnelle. J'avais 17 ans, joué dans l'équipe de rugby de Nice, une équipe extrêmement, non pas bonne, mais extrêmement vigoureuse, avec un rugby très vigoureux, donc des espèces de brutasses là. Et donc les repas d'avant-match, c'était toujours le même rituel. On mangeait à l'époque, dans ces repas d'avant-match, c'était carottes râpées, jambon d'Yorck, steak puré, vin rouge et yaourt nature. Je ne sais pas d'où ça venait, mais ça, en tout cas, c'était ça, le rituel. Et puis un jour, je ne sais pas ce qui a pris à l'entraîneur de l'époque de faire venir un diététicien qui a regardé ce qu'on mangeait et qui a dit « Non, mais ça, c'est pas bien du tout. Là. Ça, c'est pas bien du tout. La purée, c'est pas bien. La viande rouge, c'est pas bien. » Donc, il a changé et il a mis des pâtes. Des pâtes et de la viande blanche. Ce qui était relativement sensé pour un diététicien. Sauf que les trois dimanches d'après, on a perdu. Je peux vous dire que le diététicien, il est reparti d'où il est venu, et vite est revenu la purée et les victoires. Donc, c'est ainsi. Évidemment, il n'y a pas de lien de cause à effet entre la purée et la défaite, et la purée et la victoire, et les pâtes et la défaite, mais quoique, hein, ces représentations sont fortes, et elles sont pérennes, et c'est tout l'objet de mon propos. Faut-il les respecter? Faut-il les amender? Comment faut-il les aborder? J'ai lu dans l'équipe il y a 3-4 jours que Jankovic est parti à Belgrade faire un aller-retour en avion pour se faire masser le coude. Parce qu'elle a son chiropracteur qui était à Belgrade, qui n'a pas eu son visa, qui ne pouvait pas venir à Roland-Garros, qui a pris un avion pour se faire masser le coude à Belgrade. Voilà. Quand on sort de la société sportive, on se dit que c'est complètement débile. Complètement débile. Vous avez, je ne sais pas si vous l'avez fait un jour, j'espère que vous ne le ferez jamais, mais faire des milliers de kilomètres en avion pour aller se faire masser le coude, c'est débile. Pourtant, ce sont des choses qui arrivent, et Jankovic n'est absolument pas une exception dans la société sportive. On a tous connu, on connaît tous, pour les pratiquants peut-être, nous sommes tous aussi, des consommateurs d'une médecine très particulière, avec beaucoup de croyances, avec souvent effectivement un spécialiste qui est à l'autre bout du monde, parce que c'est là qu'évidemment le meilleur, celui d'à côté il est nul. Notons que les athlètes qui sont à l'autre bout du monde viennent voir les spécialistes qui sont à côté de nous. Mais il y a comme ça une représentation, une force donnée aux compétences qui n'ont rien à voir avec les choses rationnelles. Le kiné de la pleine lune, c'est aussi une anecdote rugbystique, ça date de Bègle. On a vu passer dans l'équipe de Bègle un kiné je ne sais pas s'il est toujours en vie, je ne sais pas s'il existe toujours, qui avait réussi à convaincre les joueurs qu'il fallait faire des séances de musculation à minuit les jours de pleine lune. Je vous jure que c'est vrai. Et je vous jure que certains joueurs le faisaient. Et qui allait dans son cabinet les soirs de pleine lune à minuit faire de la musculation. Voilà. Vous rigolez, des anecdotes comme ça, David, je pense, en a des milliers, où la croyance magique à l'irrationnel dessine, sculpte la représentation du corps, la représentation de la santé avec un grand S. On rentre dans l'un peu plus sérieux, la relativisation du risque, qui fait partie de ces représentations du schéma de santé. C'est quoi ? C'est, par exemple, vous posez la question à un rugbyman, tiens, tu t'es blessé cette saison ? Non. Non, non, rien, super saison, etc. Non, non, aucune blessure. Rien du tout, enfin, tu t'es pas jamais le nez... Ah si, 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 non, non, mais pas de grosses blessures. Si, 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 je me suis pété le nez, une côte, deux doigts, j'ai eu une entorse de la cheville, un claquage, une pommette dedans. Non, non, mais rien de grave, quoi. Pareil, prenez le discours, mettez dans la société civile, ce mec-là est maltraité. Ce type-là, il lui est arrivé des choses catastrophiques. Pour un rugbyman, pour un judokain, pour un boxeur, c'est rien. Il y a une intégration du risque et il y a une intégration de la traumatologie qui est spécialité, tout à fait spécifique et tout à fait intégrée. Ce sont des choses qui, encore une fois, passent complètement inaperçues dans la société dans laquelle ces discours sont portés, mais également pour les soignants qui reçoivent ces discours. Et ce n'est pas du tout anodin. En tout cas, pour un regard comme nous portons aujourd'hui dans ces journées-là, ça ne peut pas être anodin. Ça, évidemment, ça interroge et ça façonne notre manière d'aborder le soin, on va le voir. L'intégration de la maltraitance, je suis un peu provocateur parce que l'idée n'est pas de dire il y a maltraitance ou il n'y a pas maltraitance, mais tout simplement pour dire que là aussi, les représentations dans chaque discipline permettent de déplacer les curseurs de la supportabilité à la fois des athlètes qui donc vont endurer des choses qu'ils ne devraient pas endurer, mais l'entourage aussi qui laisse faire des choses sur des adolescents, des préadolescents qu'ils ne devraient pas laisser faire, ou en tout cas qu'ils ne laisseraient pas faire dans d'autres contextes. Et à la fois, c'est la deuxième partie de mon propos, c'est ainsi, ce sont des cultures qui permettent cela, mais qui, pour certaines affaires, peuvent exploser à un moment donné. Pourquoi ? Comment ? Est-ce que c'est le regard de la société qui change ? Enfin, en tout cas, il y a, on l'a dit hier, des cultures un peu militaires, basées sous la soumission, basées sur des socles qui ressemblent effectivement à des éducations qu'on voit dans d'autres endroits que le sport, et qui, quand on n'a pas ce regard sportif, ou quand on ne rentre pas dans cette un peu magie dans le sens un peu illusion du monde sportif, peuvent être extrêmement choquantes, et à la fois extrêmement tolérées, et peut-être tolérables. La valorisation des troubles du comportement alimentaire. Là aussi, des représentations permettent effectivement de valoriser des choses qui, par ailleurs, sont complètement inacceptables et dénoncées. Des exemples tout simples, sport à catégorie pondérale, on en parlait hier, ou même sport esthétique comme la gymnastique, la danse. Si pesée quotidienne, mettons, des filles, ça se fait pas loin d'ici, ça se fait, pesée quotidienne des jeunes filles de 10-11 ans, qui sont humiliées si elles ont pris un kilo, et qui vont rentrer dans un système où, pour pas justement être soumises à ce genre de choses, vont commencer à adopter des comportements pathogènes, qui, encore une fois, ailleurs seraient condamnables, qui seraient alarmants, et qui entraîneraient immédiatement leur consultation chez un spécialiste par leurs parents, si un parent voit sa gamine se faire vomir, par exemple, une gamine de 12 ans, 13 ans, judokate qui veut faire évidemment le poids le jour de la pesée, ou des diètes de 48 heures, des diètes hydriques, et puis se jeter après de manière extrêmement, évidemment, boulimique sur la nourriture, des comportements qui seraient dénoncés par ailleurs, là, dans les cultures, sont non seulement acceptés, mais valorisés. C'est-à-dire, si tu ne fais pas le poids le jour de la pesée, toi, judoka, c'est que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour le faire. Tu n'es pas digne de faire partie de notre groupe. Tu n'es pas digne de faire partie de notre monde, qui est ton monde, donc tu ne fais plus partie du monde. Donc il y a même une pression qui s'exerce sur ces enfants à se faire vomir éventuellement, si besoin. Pas tous les enfants ont besoin de se faire vomir pour respecter une contrainte pondérale, mais évidemment, ça, c'est le risque. Donc il y a une intégration dans ces cultures de comportements pathogènes qui sont non seulement tolérés, mais valorisés. Absolument pas anodin. C'est à nos portes, c'est la réalité du monde sportif. Encore une fois, je ne tire pas à boulet rouge. Vous allez voir, je questionne même comment interroger ces représentations. Le syndrome des hommes de verre, là aussi, anecdote personnelle, j'ai été appelé un jour à participer à un stage d'une célèbre équipe de foot nulle et qui me demandait, parce que je connaissais bien le médecin, me demandait d'aller avec eux passer en stage parce qu'il y avait des problèmes à l'intérieur du groupe, etc., et de voir un petit peu ce qui pouvait être fait. J'ai été stupéfait par une chose, c'est que ces hommes sont, on leur a inculqué, ils se sont construits dans cette idée que ce sont des hommes de cristal. Quand on vient d'une autre culture, évidemment, qui est complètement différente, qui est celle d'un sport de combat comme le rugby, j'étais stupéfait. Ces types-là se donnaient l'impression, et on leur donnait l'impression qu'il pouvait leur arriver tout. C'est-à-dire qu'une fenêtre ouverte pouvait les rendre pneumoniques, un escalier pouvait entraîner des fractures multiples, donc c'était l'ascenseur, il fallait absolument pas chahuter. Un jour, j'ai vu, dans un entraînement, match, donc un joueur très célèbre, qui gagnait 150 000 euros par mois, qui s'est mis à hurler, trois personnels soignants sont arrivés, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de médecins et de gens qui travaillent autour de ce genre d'équipe, qui sont arrivés. Et moi, j'étais sur le bord, comme ça, j'ai dit, merde, putain, il s'est blessé. Et qui se sont mis à ses pieds, comme ça, ils ont enlevé la chaussure, ils ont regardé, ils se parlaient, tout ça. Oh, affolement général, il avait une ampoule. Je vous jure, il avait une ampoule. Voilà. Mais c'était l'affaire du siècle. Donc, il a fallu ponctionner l'ampoule, trouver le sparadrap à la bonne taille, le remettre. À trois médecins, ils ont fait ça. Là, on dit, waouh, extraordinaire. Et donc, il y a chez ces gens-là, l'intégration totale, qu'effectivement, il peut leur arriver des choses absolument cataclysmiques. Il y a une surprotection, une bulle, comme s'ils étaient dénués de toute protection. Ils ne peuvent pas se toucher, ils n'ont pas le droit de chahuter, parce que, évidemment, un type se blesse pendant trois semaines, il est indisponible, ça coûte beaucoup d'argent au club. Et je crois que ce n'est pas anodin, c'est pas simplement rigolo, parce que je pense qu'ils finissent par devenir fragiles, par une espèce de malléabilité de notre humanité qui fait que les choses, je ne sais pas comment le définir avec des mots très justes, mais finissent par devenir ce que l'on croit qu'elles sont. Et ils ont effectivement après une fragilité incroyable. Alors ça peut s'expliquer certainement par la neurologie, par le fait qu'ils n'ont pas les attitudes de protection, peut-être, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, ces sportifs-là, mis à part pour leur pratique très claire qui est le football, où ils arrivent beaucoup mieux que nous le ferions, moi ou David, ou des gens peut-être plus aguerris à des contacts, à se protéger de choses extrêmement graves parce qu'ils savent comment se faire tacler ou comment chuter, et nous on ne saurait pas, mais pour tout le reste, ils sont de cristal. Donc voilà des exemples très anecdotiques de ce déplacement des normes, de ce déplacement des curseurs en matière sanitaire. Et encore une fois, la liste n'est absolument pas exhaustive. Donc si on généralisait de manière extrêmement grossière, je dirais que la représentation corporelle sportive, suivant les cultures, suivant les moments, suivant la pratique, elle oscille entre une espèce de fragilité, les hommes de verre, dépendance au médecin, très très vite. Voilà, on ne peut rien faire sans aller voir le médecin, sans aller voir le kiné, sans aller voir le mec qui est à Belgrade et qui sait masser mon coude. Personne ne sait masser mon coude comme celui qui est à Belgrade. L'irrationnel, la magie. Hein, je connais quelqu'un qui, lui, y arrive. Lui, il sait. J'ai une entorse du genou, lui, il sait. Avec lui, je joue dimanche. Non, ton ligament, il est foutu, tu ne peux pas jouer dimanche. Non, mais il va me remettre, lui, il sait. Ou alors la pleine lune. Et puis, d'un autre côté, une capacité à supporter des choses insupportables, inacceptables, une endurance, une intégration du risque et des dangers que la société civile n'a pas. C'est-à-dire quelqu'un qui se pète le nez, il en fait toute une affaire. Là, c'est normal, un mec qui me prend un point dans la gueule, il va le raconter pendant trois semaines à tout le monde. J'ai pris un point dans la gueule, t'as vu, je me suis pété le nez, etc. Bon, il y a plein de sports où bah, tu ressors du... Je pense au judo. Enfin, c'est... On joue toujours blessé. On joue toujours avec la douleur. On joue toujours avec, avec quelque chose qui est rompu, qui est extrêmement douloureux. On n'en parle même pas. L'idée, c'est même de le taire pour pouvoir continuer à pratiquer. Je discutais hier avec un type qui me disait oh, putain, je souffre du dos, je souffre du... Tu peux pas savoir. Je souffre du... Et le mec, il me parlait, il faisait comme ça. Je souffre du dos, là. Oh, putain, tu vois, et quand je fais ça, là, oh, putain, j'ai mal. J'ai mal, alors je vais passer une IRM. Non, mais vraiment, putain, tu vois, là, oh, il meurt comme ça. Pas ce que j'ai, là, je dois avoir une déchirure. Alors, j'ai passé une IRM, j'ai vu mon médecin. Et je réfléchissais, moi, ça fait 40 ans que j'ai mal au dos. 40 ans que j'ai mal au dos, j'ai 48 hernies discales, etc. Ce type-là ne supportait pas l'idée d'avoir mal au dos, finalement. Il ne supportait pas son mal au dos. Et c'est lui, certainement, qui a raison. Mais en tout cas, il y a cette oscillation entre une fragilité, une vulnérabilité, une dépendance médicale grotesque, et puis, d'un autre côté, des curseurs dans des endroits très précis qui sont à l'extrême et qui sont extrêmement décalés. Mais cette fois, dans ce côté capacité d'endurance, qui sont... extrêmement décalé. Donc, quelque chose qui est très très large et qui n'est absolument pas rationnel. Alors, l'impact sur le soin, quand vous êtes professionnel de santé, alors sur le soin psychologique, hein, je n'ai pas rajouté, on est toujours dans notre champ, là on va sortir du corporel et on va rentrer dans le psychologique. Mais évidemment, cette avidité irrationnelle, ce besoin de magie, cette déconnexion de l'objectivité, évidemment, laisse la porte ouverte à tout ce que l'on connaît, c'est-à-dire des gens qui viennent s'engouffrer dans ces failles et qui répondent à une demande, qui la nourrissent, qui la devancent, à cette demande médicale magique permanente, et alors sur le mental, n'en parlons pas, qui finissent par former une espèce de gang autour de l'athlète, et qui va occuper la place, par rapport peut-être à une intervention sanitaire beaucoup plus neutre, beaucoup plus objective, beaucoup plus médicale, tout simplement. Mais le champ sportif est comme ça, truffé. Moi, je suis assez dur, hein, d'incompétents, de charlatans, qui viennent répondre et nourrir à cette demande. Voilà. Le système est construit comme ça. Il y en a plein, je pense que vous en connaissez énormément, et qui sont évidemment une difficulté de plus pour accéder... aux soins, pour accéder aux troubles et pour accéder à l'athlète. Mais parce que vous imaginez que le discours n'est pas le même. Et que les gens qui ont cette proximité, souvent extrêmement lucrative, vont tout faire pour qu'un regard plus objectif ne vienne pas s'immiscer. Un regard plus pédagogique qui va dénouer, qui va déconstruire les croyances, ne vienne perturber finalement cet équilibre dans lequel tout le monde est content. L'athlète est content parce qu'il est, chouchouté, conforté dans ses trucs, et puis le profiteur est content aussi parce qu'il gagne beaucoup d'argent. Donc c'est un système où il y a une obstruction. L'ambivalence du soignant, là je parle du soignant que je qualifierais d'objectif, et c'est peut-être un peu prétentieux, mais pour bien vous faire comprendre. L'ambivalence parce que, là aussi c'est des réflexions de terrain, on oscille sans arrêt entre la volonté de ne pas rentrer dans le discours magique, irrationnel, dire non, 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 là on n'y va pas, non, non, il demande un truc qu'on ne peut pas faire, et à la fois l'idée quand même de saisir cette petite ficelle, cette petite cordelette pour tisser un lien, en disant, ouais, mais si on ne rentre pas là-dedans, chut, il va voir quelqu'un d'autre. Il va voir quelqu'un d'autre et il est perdu. Alors qu'on pourrait peut-être, en commençant par l'écouter, et petit à petit, en travaillant sur sa demande et en la faisant évoluer, c'est l'auto-justification du psychothérapeute permanente. C'est, je vais faire évoluer sa demande. Mais bon, je le reçois quand même. Non, non, mais je suis pas dupe, mais je fais évoluer sa demande. Bon, sauf que des fois, la demande, elle évolue pas. Et qu'on reste toujours planté sur cette demande initiale qui est, il faut me faire gagner, ou j'en sais rien, etc. Donc on est dans une ambivalence entre vouloir être très orthodoxe en disant non, on ne répond pas à ce genre de demande parce que ce n'est pas notre boulot, nous sommes des soignants, tatati, tatata, hein, nous sommes dans la pathologie, nous sommes dans le soin. Et puis l'envie des fois de ne pas laisser passer soit un cas intéressant, soit une personnalité intéressante, soit simplement parce qu'on a un coup de mou, j'en sais rien, et qu'on a, on dit non mais là quand même, ce serait bien de le recevoir une fois, deux fois, puis après on verra, mais on peut peut-être travailler autour de sa demande. Donc évidemment on n'est pas très rigoureux et la limite est ténue aussi des fois en se demandant si derrière cette... Voilà, toujours cette phrase aussi. Derrière cette demande, il y a autre chose. On va découvrir cette autre chose avec lui. Donc c'est pas si net que ça, la frontière n'est pas si nette que ça. L'impact sur le soin, la seconde partie de ces représentations qu'on pourrait donc mettre dans cette phrase, intégration du risque, valorisation des conduites pathogènes, intégration des dangers, etc., c'est qu'évidemment c'est très difficile de reconnaître le trouble, et pour l'athlète lui-même, parce que c'est normal, donc je vais bien, je me fais vomir, mais c'est normal, tout le monde le fait, et puis on me dit de le faire. Je m'alcoolise de manière extrêmement excessive en rugby, on me prend des bitures incroyables, j'ai 17 ans, j'ai 18 ans, c'est pas normal, c'est un usage abusif et explosif, mais en tout cas dans ma culture c'est tout à fait valorisé. Et puis si je le fais pas, même on me dit que je suis pas digne d'être. Donc la reconnaissance d'un trouble qui ailleurs serait reconnu d'emblée, etc., etc., dénoncé, pris en charge, là évidemment c'est difficile, parce qu'encore une fois il y a des endroits où les curseurs sont bien déplacés, et donc les choses qui sont en deçà, au-delà pardon, du curseur de la société générale, là, dans cette micro-société, est en deçà. Donc, impossibilité ou grande difficulté pour la personne de reconnaître son propre trouble. Donc, de lier une éventuelle souffrance à quelque chose qu'il ne reconnaît pas lui-même comme un trouble. Donc, je pleure, je ne suis pas bien, je suis fatigué, j'ai les idées noires, etc., mais c'est parce que... C'est certainement pas à cause de ça. C'est plutôt par ce que m'a dit mon médecin, c'est un manque de magnésium. Ça marche très très bien. Donc la reconnaissance du trouble est évidemment extrêmement masquée et rendue difficile par ces déplacements de curseur. La difficulté de prise en charge aussi, parce qu'une fois que vous avez reconnu le trouble, c'est pas facile de prendre en charge parce que les schémas sont intégrés. Et donc il y a une véritable résistance, même une fois que l'athlète est chez vous en prise en charge, il y a une foultitude de résistances qui sont extrêmement puissantes, qui sont intériorisées, et c'est difficile. Et faut-il déconstruire ces croyances? C'est toujours des questions, encore une fois, qui vont venir dans l'exposé. Donc, un impact sur le soin qui est majeur. Voilà, maintenant, je suis bien là, non? Je suis bien arrivé. Donc, j'arrive sur la fin, et c'est la partie interrogative de mon propos. C'est l'impact l'impact du soin sur ces représentations. C'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup réfléchir depuis quelques temps. D'abord, de manière générale, les normes de la société évoluent. Là, je parle de la société en général. Et ça, évidemment, j'enfonce une porte extrêmement ouverte, mais je donne cet exemple dont des fois je discute en staff. J'ai parlé hier à Jean-François, les mousses de la marine, de la pêche à la voile du début du siècle. Je ne sais pas si vous savez les conditions de vie de ces petits mousses en Bretagne, les bateaux à voile qui partaient pour des campagnes de 6 mois. Il y avait toujours des petits mousses qui avaient 10 ans, 11 ans, 12 ans et qui partaient pendant 6 mois sur ces bateaux à voile dans des conditions de vie, mais extrêmement dures. Ils faisaient tout sur les bateaux. Ils faisaient la cuisine, ils faisaient le ménage. Ils étaient dans des conditions de vie extrêmement dures, de tempêtes, de trucs, de machins. Ils dormaient. Bon, c'était épouvantable. Et puis souvent, on le dit ou on l'entend ou le sous-entend, ils étaient violentés par l'équipage. Violentés. Il n'empêche que c'était valorisé. Le petit mousse devenait lui-même marin et puis après allait violenter un petit mousse. Aujourd'hui, ces pratiques-là, tout le monde va en tôle. C'est une affaire outrobis, quoi. Tous les marins vont en tôle. Pourtant, c'était intégré dans la société, tout à fait toléré et valorisé. Y avait-il souffrance ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, la société générait ça et acceptait ça. Aujourd'hui, elle ne l'accepte plus. Et on voit qu'on va vers une société qui accepte de moins en moins le risque, beaucoup de choses, est-ce bien, est-ce mal, c'est pas mon propos, mais d'une façon générale c'est une question que l'on doit toujours avoir en tête, c'est que les curseurs de la société eux-mêmes évoluent en permanence et je pense très rapidement. Donc le supportable devient insupportable, la barbarie d'hier, ce qui était la norme hier est une barbarie, la norme d'aujourd'hui sera forcément une barbarie pour demain, n'est-ce pas Jean-François, en parlant hier, sauf si l'espèce s'éteint, c'est le programme de Jean-François, mais c'est un autre débat. Mais si, mettons que l'espèce humaine continue à vivre, nous sommes forcément les barbares de demain. Et on regardera notre société comme là on est en train de rigoler des anecdotes des matelots mousses ou d'autres problèmes beaucoup plus graves. Donc ces curseurs diminuent, nous ne sommes pas, nous, dans une objectivité, nous sommes aussi dans une relativité. Pour en revenir aux mousses, la stigmatisation crée certainement des pathologies. C'est-à-dire que tant que vous êtes dans une structure névrotique, là j'utilise des mots que je ne maîtrise pas très très bien, mais un petit peu, pour faire une allusion psychologique, voilà, mais qui est muette, c'est-à-dire une espèce de déséquilibre instable ou un équilibre déséquilibre stable. Vous voyez bien que ça déconne, mais ça marche. Il me semble qu'il y a une attitude de thérapeute qui dit on n'y touche pas, il compense, ça va, même si ça nous paraît, mais ça va. Et si on touche à ça, parce qu'on voudrait que ça soit plus quelque chose ou moins quelque chose, on risque de faire décompenser l'édifice. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans ce schéma-là, quand on rentre dans des choses que nous, on veut dénoncer, ou on dénonce, mais qui sont muettes, où on ne voit pas de souffrance élaborée, dite. Et nous, avec nos propres représentations, on pense qu'il faudrait améliorer la chose. Mais est-ce qu'on ne crée pas plus de dommages qu'il n'y en avait ? Peut-être pas. Peut-être devons-nous le faire pour d'autres motifs que le soin. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit être présent à notre esprit. Et en fait, est-ce la dernière ? L'avant-dernière. Ce qui fait que le socle de l'intervention du soignant, hier, Marc Fariacombe disait, c'est super. Enfin, non, il disait, je lui fais dire, c'est super simple, le soignant intervient quand c'est pathologique. Voilà, quand c'est pas pathologique, il n'intervient pas. Super, mais la question de ces deux journées, c'est qu'est-ce qui est pathologique ? Et qui définit le pathologique ? Donc, c'est insuffisant de dire on intervient quand c'est pathologique. En tout cas, aujourd'hui, pour moi, c'est insuffisant. Un des socles de notre intervention, c'est la demande. Évidemment, là, c'est simple. Une souffrance exprimée. Dans notre cas, c'est compliqué. Un des socles de notre intervention, c'est la représentation sociétale, celle dont je viens de parler par rapport à Optimus. Il y a des choses qui sont maintenant inacceptables. Il rentre dans le discours aujourd'hui qu'effectivement, certaines pratiques d'entraînement chez des super jeunes enfants est inacceptable pour la société. Donc évidemment, la démarche de soins va être facilitée. Mais c'est la représentation sociale qui a changé. Ce n'est pas les pratiques qui ont changé. Évidemment, et c'est certainement la question personnelle que j'ai, c'est la propre représentation du soignant. Pour faire clair, moi je tolère des choses dans le monde du rugby, parce que c'est ma culture, qui paraissent complètement aberrantes pour d'autres. Par contre, je trouve tout à fait inacceptable des choses dans d'autres cultures, parce que ce n'est pas la mienne. Donc le soignant ses propres, arrive avec ses propres représentations, et vient bousculer les choses, parce qu'il pense que ce qu'il voit n'est pas acceptable. C'est aussi un des socles neutres. Nous ne sommes évidemment pas neutres. Une porte ouverte là aussi, mais je crois qu'il y a ces conséquences extrêmement pratiques dans notre champ, où la demande, encore une fois, n'est pas claire et n'est pas simple. Donc ce qui fait qu'en tant que soignant, il y a un éternel combat entre la représentation endémique déformante, c'est-à-dire la représentation de l'athlète, de sa société, de sa micro-société, de son entourage, etc., qui masque le trouble, qui exacerbe la pathologie, confère l'ampoule ou qui minimise les risques, les dangers, etc., etc., etc. Oui, il y a évidemment ce combat-là avec ses propres représentations qui viennent dénoncer des choses qui nous semblent, nous, inacceptables avec nos propres cultures. Et puis, la représentation sociétale qui évolue et qui dit à un moment donné, voilà, à partir de maintenant, ça sera plus acceptable. Encore une fois, tout simplement parce que la demande est peu ou pas exprimée. Et notre champ est confronté à cette question permanente. Voilà, j'ai dépassé un petit peu, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.
Merci Serge. Alors, y a-t-il des questions sur ce décalage entre le grotesque et le sacré, sur cet évolutionnisme sociétal dont tu nous parles, et finalement sur ces constantes qu'il reste du théologique que commencent à prendre les représentations dans le sport de haut niveau ? Allez-y, lâchez-vous.
Oui, la question était, on sait qu'on a tous des droits à la santé, mais quelle doit être la position justement du soignant ou du soigné dans le cadre des devoirs vis-à-vis de la santé publique, dans le sens où c'est vrai que lorsqu'on est sportif, on se fait plaisir, on a chacun notre idée du bien-être, donc qui parfois cache un peu le bien-être physique. Mais qu'en est-il étant donné qu'ensuite, comme vous le disiez tout à l'heure, on risque finalement d'être un poids pour la société, puisque si on ne s'écoute pas, il va arriver un moment où on va avoir des problèmes partout et puis on va être pris en charge justement. Et donc n'y a-t-il pas justement un devoir que chaque athlète doit prendre en compte. Et est-ce que peut-être ce n'est pas peut-être le rôle du soignant justement de faire prendre en compte le fait qu'il a des devoirs.
Alors, tu parles d'un devoir de se maintenir en bonne santé, par exemple.
Oui, ou du moins ne rien faire pour mettre en danger sa santé.
Oui, mais alors faut arrêter le sport de haut niveau.
Voilà, mais justement, c'est bien pour ça. Je suis totalement d'accord, mais la question, c'est justement, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, c'est une question, hein, je ne sais pas, pour responsabiliser l'athlète là-dessus.
Christophe, c'est une question, tu tapes dans le mille. C'est une des questions majeures, on en parlait hier, je ne sais plus avec qui, Joël Delplanque avant qu'il ne reparle. Il disait, la question qu'il y a même derrière cette question, c'est qu'est-ce que le haut niveau et pourquoi l'État républicain met des moyens dans le haut niveau? Quels sont les objectifs? Ils ne sont pas définis. Et ils oscillent sans arrêt entre des fausses vérités qui sont le sport santé, etc. Débile pour le sport de haut niveau, on est tous fracassés, on le sait très bien. Ça serait à refaire, on le referait, c'est pas le problème. Mais pourquoi faire du sport de haut niveau? Pourquoi a-t-on besoin de faire du sport de haut niveau? Pourquoi la société a besoin du sport de haut niveau? Et pourquoi l'État le finance-t-il? Bon, c'est la question qu'il y a derrière ta question. Et à ta question qui est un peu en deçà, qui est-ce qu'il devrait y avoir un devoir de santé? Oui, mais là, on rentre en plein dans les questions que pose que je soulève moi-même, avec moi-même sur mon exposé, qui sont, oui, mais à ce moment-là, tu ne t'occupes pas de sportif. Parce que dire à un sportif, arrête de faire du vélo parce que t'es en train de te fracasser ta santé, tu vas finir très très mal, ou dire à un judoka, faut que t'arrêtes parce que tu es en train de te ruiner le dos, tu es en train de ruiner tes articulations et à 35 ans, tu vas plus pouvoir faire un footing. Un rugbyman pareil ou un boxeur, arrête parce que prendre des coups dans la gueule, c'est absolument pas bon pour la santé. Eh bien, tu arrêtes tout simplement, tu arrêtes de voir la personne. Donc, c'est là où je dis que les curseurs sont déplacés, y compris pour le soignant, où nous sommes dans cette ambivalence où si on veut être orthodoxe et dire moi je suis là pour que les gens soient en bonne santé. Donc, mon discours, il est super clair, la ligne, elle est super claire, elle est dessinée là. Tu vas dessiner ta ligne, mais tu verras personne. Tu n'as rien à faire dans le sport du haut niveau. Si tu fais de la vraie médecine de soins, tu n'as rien à faire dans la médecine de haut niveau. Et tu es obligé de rentrer dans cette demande, tu es obligé d'accepter le déplacement des curseurs, tu es obligé d'intégrer une partie des cultures qu'on te propose. Et de voir que oui, jouer avec une côte cassée, oui, jouer avec une entorse du genou, oui, infiltrer pour faire un quart de finale, oui, tout cela est acceptable ici. Tout cela est acceptable ici. Mais la position du soignant ne peut pas être une vraie position, enfin une position orthodoxe de soignant pur et dur. Sinon, encore une fois, soit tu n'as rien à faire là, soit c'est le sport de haut niveau qu'il faut arrêter. Voilà, maintenant... Ça renvoie à une autre question. Qu'est-ce que le sport de haut niveau? Pourquoi fait-on du sport de haut niveau? Et pourquoi l'État finance le sport de haut niveau? Et c'est une très bonne chose. Les représentants de l'État sont là. Et c'est une très bonne chose. Il y avait après le docteur Deveau.
Oui, enfin, je sais pas, j'aurais un peu modulé. Enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand on dit qu'en tant que soignant, si on veut faire de la médecine de soins, on est obligé d'être vraiment orthodoxe et fixer, je dirais, clairement les lignes. Je pense quand même que c'est un peu plus subtil que ça, enfin, me semble-t-il, en tant que clinicien, que l'approche de soins. Mais je pense qu'effectivement, par rapport au sport de niveau, là, je te rejoins complètement, la marge de manœuvre, elle est très, très étroite. Et il faut faire, effectivement, avec ce que tu décris bien, cette espèce d'irrationalité. Mais je crois qu'en tant que soignant, on est obligé de tenir compte de cette irrationalité. On n'est pas forcément obligé de rentrer dedans. C'est-à-dire que, après, l'analyse de la demande, c'est compliqué quand même. C'est pas parce que les gens demandent une chose qu'ils viennent forcément pour ça. Donc, c'est un petit peu plus subtil que ça, il me semble, mais aussi plus complexe. Mais avoir des... Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment ce que dire, mais avoir en tant que soignant, moi, j'ai jamais de position tranchée. Quoi. Enfin, je veux dire, il y a des choses, c'est blanc, c'est noir, c'est facile, mais on est plus souvent, surtout avec le sport de niveau, dans des choses qui sont plutôt gris clair. Quand on a un petit trouble du comportement alimentaire, dont on sait que ça peut se barrer assez vite dans des choses un peu plus graves, comment on fait, comment on agit, qu'est-ce qu'on va lui dire? On n'est pas en face de quelqu'un qui est pathologique, mais qui peut avoir des problèmes, de santé derrière. Donc. Voilà. C'est un peu aussi comment on doit se positionner en tant que soignant face à ces demandes, face à ces situations.
Oui, il y a un point que tu soulignes de façon très claire, Michel, là-dessus, c'est dont on sait qu'il peut partir. Et finalement, ça, par rapport aux normes, qu'elles soient psychologiques ou physiologiques, que va amener Martine, on ne le sait pas si bien que ça. À quelle vitesse on part et quelle est finalement la capacité d'adaptation dans le sport de niveau avec la structuration intellectuelle, physique, avec l'histoire qui amène les sportifs de niveau jusqu'à ce qu'ils sont, finalement, on n'a pas réellement l'appréciation de la façon, la vitesse à laquelle ils vont partir, quelles sont leurs capacités de résilience, quelles sont leurs capacités de support, et ce que tu décris comme étant à un moment donné sur des représentations magiques, sacrées, etc., fait partie aussi de leur capacité à encaisser et apprendre. Et ça, c'est un des points sur lequel la question de l'épidémiologie va amener à la fois des réponses en même temps que des déconstructions de mythes, avec tout le risque que ça veut dire, qu'est-ce qu'on met et pourquoi on met de l'argent dans des structures comme ça pour savoir un peu plus et préciser le risque, et en fonction de quelles normes on les place, très clairement, on va avoir derrière plus d'informations sur ce risque réel. Parce qu'un comportement qui est effectivement celui du début d'une pathologie dans un contexte de population normale, est-ce qu'il devient dans ce contexte-là quelque chose qui va ensuite être réintégré dans un comportement, parce que le sportif de haut niveau, dans sa reconversion, vous en avez parlé hier, permet après de capitaliser sur tous ses gains en termes de gloire, en termes de notoriété, en termes d'image, etc. Et puis finalement adapte ses difficultés ou ses névroses anciennes. Bon, là, il y a des points sur lesquels il va y avoir des questions à poser en termes de normes réelles et qu'est-ce qu'elles veulent dire et sur lesquelles on maîtrise peu les choses.
Oui, juste pour répondre un petit peu à Serge concernant le sport santé notamment. Je rappellerai que le sport est un droit pour tous. Hein, on a tous le droit de faire du sport. C'est inscrit dans le code du sport, c'est l'article premier. Ça, c'est un préambule. Et donc, à partir du moment où tout le monde a le droit de faire du sport, il y a ce qui a été dénommé le sport santé, mais qui est plus pour le sport pour tous. Ça ne concerne pas tellement le sport de haut niveau, qui est à part. C'est une entité à part qui a un suivi médical spécifique. Et c'est l'engagement de l'État, justement, pour le suivi du sportif de haut niveau. C'est un engagement qui est fort, comme est l'engagement du sportif pour son pays, pour représenter son pays. C'est dommage que, lors de ces journées, on n'a pas un économiste du sport qui puisse venir nous parler, de cette part financière du sport, notamment du sport de haut niveau, qui est énorme, hein, et de l'engagement des États, justement, dans le suivi de ces sportifs de haut niveau et de l'après-carrière. On a fait le parallèle avec les militaires et les mousses. Il faut savoir que chez les militaires, il y a des pensions militaires d'invalidité, donc on pourrait imaginer qu'il y ait une prise en charge du sportif dans la post-carrière aussi. Ça fait appel à des notions qui ne sont pas peut-être habituelles dans le monde du sport, mais ça s'ouvre sur d'autres pratiques. On a parlé de la danse aussi, on sait que les danseuses ne sont pas tellement bien suivies, et elles pourraient intégrer aussi le pôle de suivi dans les structures de plateau technique, on pourrait l'imaginer aussi par des biais d'engagement du monde médical, puisque ce monde médical ne s'engage pas suffisamment vis-à-vis du sport. Les médecins ont des réticences dans la pratique du sport. Beaucoup de médecins ne pratiquent pas déjà, et les médecins qui ne pratiquent pas n'ont pas tendance à prescrire des activités physiques et sportives, d'une part, et prennent le sportif comme au niveau comme un maso. Il se fait mal, mais bon, c'est bien fait pour lui, de toute façon, il gagne de l'argent, il n'a pas besoin de ça. Donc cette image doit être modifiée, c'est votre place justement dans ce schéma du sport de haut niveau, de la médecine du sport de haut niveau, de la psychopathologie du sport de haut niveau, que de faire changer les mentalités des médecins, des psychologues, des entraîneurs, des cadres sportifs, des cadres techniques, des DTN, pour qu'ils acceptent justement cette prise en charge si particulière, mais à la fois si normale et si normative. Puisque vous l'avez bien dit, un sportif, certes, il est hors norme, mais en post-carrière, il devient un citoyen comme tout le monde, avec des droits comme tout le monde, à la santé notamment, et il disparaît des schémas de ce suivi si spécifique. Donc ce sont des pistes de réflexion que je te soumets, et je sais que tu as assez de poids pour proposer des nouvelles directives. Merci.
Conclusion, je manque de subtilité et j'ai beaucoup de poids.
Une dernière question avant qu'on passe à l'émission. Oui.
Franck Eisenberg, je travaille au CAPS. Donc c'est des questions, tu as évoqué quelques questions voilà, que je connais un petit peu, enfin dont on a souvent parlé. Il y a néanmoins une question que je me posais sur justement cette, effectivement, cette attitude du soignant et cette influence du soin et de la prise en charge. Je me demandais s'il n'y avait pas une distinction peut-être à faire. Alors, je vais peut-être revenir à des choses très terre à terre. Entre je pense notamment entre les sportifs mineurs et majeurs. Dans les exemples que tu as pris, par exemple, effectivement, entre les jeunes gymnastes de 11 ans, tu évoquais, que l'on pèse tous les jours publiquement, et le rugbyman qui en est à sa cinquième hernie discale, est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de devoir moral aussi? La morale étant également influencée par les normes ambiantes et ainsi de suite, mais est-ce que d'un point de vue médical, il n'y aurait pas aussi un devoir moral, au moins d'obtenir un consentement éclairé? C'est-à-dire que le rugbyman qui, effectivement, et tu le dis, si c'était à refaire, je le referais, le rugbyman qui, à 30 ans, accepte au fond de se casser le nez pour la cinquième fois, j'ai le sentiment que la situation n'est pas la même que pour la jeune gymnaste, dont on peut s'interroger, un, sur les motivations intrinsèques, deux, sur la conscience du risque encouru, ce genre de choses. Donc, est-ce qu'une des fonctions du soin, est-ce qu'il n'y a pas une distinction, au fond, deux questions, est-ce qu'il n'y a pas une distinction à faire en fonction de l'âge, au fond, et est-ce qu'une des fonctions du soin n'est pas aussi d'obtenir un consentement éclairé et après, libre à chacun de prendre les risques ou d'encourir les risques potentiels?
Discours théorique extrêmement séduisant, sauf que la question de l'âge est primordiale parce que justement, quand tu parles de jeunes enfants ou préadolescents et adolescents, tu vas rentrer dans un champ qui n'est plus celui du sport, mais qui est celui de l'éducation. Et il me semble, non pas difficile, mais extrêmement délicat, dans bien des situations, de venir remettre en cause un schéma éducationnel dont le sport fait partie, dont une pratique sportive peut faire partie. Est-ce qu'on rentre dans une... Alors, c'est le même débat, et beaucoup plus, cette fois-ci, légal et sur la maltraitance. À quel moment on ouvre la porte d'une famille? À quel moment nous décidons de... Soignants, je parle, de lancer la grosse machine, on s'est posé la question, dans notre service, sur des jeunes athlètes. Mais sortons du sport. À quel moment on fait effraction dans cette structure familiale qui nous paraît à nous pathologique et génératrice de souffrance et de troubles? Tu sais très bien que la réponse est extrêmement difficile. Pour l'enfant lui-même. Parce que ce que tu vas lui proposer après, en passant par la déconstruction, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. C'est pour là que je redis ce que je disais tout à l'heure, une construction certes névrotique, bancale, etc., mais qui tient. Et comme ça, laisser penser ou penser, en tout cas c'est absolument pas mon avis, qu'il y a, en tant que soignant, un devoir moral qui dit « ah ben non, parce que là c'est oui, là c'est non », la réalité est tout autre. Et obtenir un libre consentement d'une jeune gymnaste en lui demandant si à 10 ans, 11 ans, elle est consentante dans sa pratique intensive de la gymnastique, d'un point de vue psychologique, c'est une aberration. Elle est sous l'emprise éducationnelle tout à fait normale d'un schéma parental qui peut-être la voit comme une grande champagne. Et alors? Alors après, jusqu'où? Et c'est là où j'interroge, et je m'interroge, et où le soin doit interroger aussi, mais je ne crois pas qu'il y ait une réponse manichéenne et évidente.
Bien, je vous propose qu'on termine là, qu'on avance, parce que la matinée et le temps coulent. Et on va passer donc à la deuxième partie, la présentation de Martine sur l'évolution de ces normes dans un contexte physiologique cette fois-ci.
Donc moi, je vais parler plutôt de l'aspect somatique. Et en fait, en l'absence de normes dans cet univers hors normes, la loi en fait définit un cadre légal de suivi, puisque les sportifs de haut niveau sont soumis à la loi relative à la protection de la santé des sportifs, qui définit la nature et la fréquence des examens qui doivent être réalisés chez ces sportifs inscrits sur les listes haut niveau. Alors, le CNOSF explique la légitimité de ces examens, donc pourquoi un suivi médical, donc médecine préventive, d'aptitude, etc. Il explique aussi pourquoi, en plus de l'examen clinique, il y a un bilan biologique, donc c'est, vous voyez, de la recherche de pathologie, l'état nutritionnel, évaluation d'un éventuel surentraînement, et puis rechercher des conséquences sanitaires liées à la prise de produits dopants. Et puis, à l'autre extrémité, il y a aussi un cadre légal de prise médicamenteuse avec des médicaments qui sont totalement interdits parce qu'ils peuvent avoir un effet considéré comme ayant un effet dopant. D'autres qui sont sur la liste qui peuvent être pris sans précaution particulière. Et puis une grande partie qui ne sera prise que moyennant effectivement une autorisation d'usage thérapeutique qui est délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage. Donc on est un peu dans deux cadres et on va prendre notre sportif dans ce niveau-là. Alors, quel est le problème du médecin ? Est-ce que problème il y a quand il suit un athlète de haut niveau ? Bah d'abord, il va faire un examen clinique, et un examen clinique, c'est l'interrogatoire. Alors, il y a des choses qui peuvent poser problème, parce que le sportif peut déjà exprimer un signe classiquement, c'est la fatigue. Alors, comment intégrer cette fatigue par rapport aux normes ? Par rapport à quelles normes il faut se situer ? C'est vrai que si on se situe dans la population tout venant, si quelqu'un vous dit qu'il est fatigué et qu'il vous dit qu'en fait à l'interrogatoire vous apprenez qu'il s'entraîne 4 à 6 heures par jour, vous allez vous dire c'est normal. Oui, il ne faut pas oublier qu'on se situe face à un athlète de haut niveau qui s'entraîne une à deux fois par jour régulièrement. Deuxième chose, ce qui est un problème aussi pour le médecin du sport, imaginons que donc ça veut dire que déjà le sportif doit être vu par des gens qui connaissent la médecine du sport et la pratique et les problèmes inhérents à la pratique sportive. Puis le deuxième problème du médecin, c'est effectivement d'intégrer cette fatigue dans l'entraînement. L'entraînement, c'est quoi ? Merci. L'entraînement, en fait, c'est un processus de surcharge qui a pour but, en fait, de modifier l'homéostasie, qui va créer physiologiquement une fatigue, mais qui va induire, après, une augmentation de la performance. Alors, vous avez deux choses. Vous avez d'abord l'entraînement, donc, normal. Et puis, le problème, c'est que quand le sportif va augmenter volontairement ses charges d'entraînement, par exemple, il fait un stage d'entraînement, un camp d'entraînement, et là, sur une courte période, il va augmenter l'intensité ou la durée de son entraînement. Et là, donc, ça va induire une fatigue qui peut durer plusieurs jours, voire quelques semaines, mais qui, normalement, doit disparaître et conduire à une amélioration des performances. Le problème, c'est que parfois, quand il y a un déséquilibre entre l'exercice et la récupération, eh bien, le sportif va présenter une fatigue qui va se prolonger. Et là, le problème, c'est de mettre le doigt sur à quel moment la fatigue devient pathologique et à quel moment le sportif va commencer à verser dans ce qu'on appelle l'overreaching, voire le surentraînement. Et même ça, pour le médecin, actuellement, on n'a pas de diagnostic formel de surentraînement. Donc, en fait, comment intégrer cette fatigue ? Eh bien, c'est l'intégrer dans le contexte du sportif, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une notion d'augmentation des charges d'entraînement ? Puis surtout, un point important pour le sportif, qui est un point très référent, c'est est-ce qu'il y a une diminution des performances sportives ? Puis ne pas oublier que le sportif, ce n'est pas que l'activité physique, c'est aussi la récupération. Et c'est la balance, l'équilibre entre les deux qui va conduire à la performance ou à la stabilité. Et vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est quels sont les facteurs qui vont interférer avec la récupération de ce sportif. Ça peut être des facteurs professionnels, mais ça peut être aussi des facteurs personnels. Donc il faut vraiment rentrer, englober le sportif dans un contexte comme un patient. C'est sa vie professionnelle et sa vie privée. Alors deuxième problème, et ça Serge en parlait déjà, le problème des signes fonctionnels qui ne sont pas donnés par le sportif, parce que pour le sportif c'est normal. Je prends l'exemple des troubles du cycle chez la sportive, les femmes qui font de l'endurance. Eh bien, si vous l'interrogez, vous lui dites est-ce qu'il y a des problèmes, elle vous dira non, parce que pour elle, ne pas avoir de cycle, être en aménorrhée, bah, c'est normal, puisque la moitié des collègues sont exactement pareils. Donc si vous ne recherchez pas ce cycle, ce signe, qui lui est considéré comme normal dans le milieu, eh bien effectivement, vous pouvez passer à côté d'anomalies, ou par exemple des troubles du comportement alimentaire, effectivement. Alors cliniquement, bah, vous allez examiner votre patient, et là, pareil, on a un problème de normes. Premier examen clinique, le poids à la taille, et on calcule l'indice de masse corporelle. Or, qu'est-ce qu'on nous dit ? Si on a un indice de masse corporelle supérieur à 30, votre sujet est obèse. D'accord ? Problème, c'est que vous voyez un joli rugbyman, 1m80, 110 kg, BMI 33. Ah, est-il en état d'obésité et faut-il soumettre à un régime hypocalorique ? Bah non, je veux dire, c'est un sportif de haut niveau, il est pilier. Bah, vous allez le mesurer, sa masse grasse, il est à 12%, ouf. Donc vous voyez, les normes, il faut les situer. A l'inverse, on sait qu'un IMC, un indice de masse corporelle inférieur à 18 chez la femme, c'est associé à des troubles du cycle, en tout cas à un risque élevé de troubles du cycle. Bah oui, mais quand on regarde des athlètes qui font de l'endurance, on s'aperçoit que sur 28 études, on s'aperçoit que la majorité des athlètes de haut niveau qui font de l'endurance, les femmes, ont un IMC autour de 18. Alors ça veut dire, cela veut-il dire que toutes les femmes qui font du sport de haut niveau sont en aménorrhée, ou il faut leur faire prendre du poids? Ben non, vous allez aussi mesurer la masse grasse. Mais là, pareil, vous allez mesurer la masse grasse, mais vous allez vous citer par rapport à quelle norme? Je vous rappelle que la masse grasse chez la femme, de poids normal, c'est autour de 25%. Et si je vous cite cette étude, qui est une méta-analyse, eh bien, toutes les athlètes qui font du sport d'endurance et qui ont des cycles réguliers ici, elles ont 18% de masse grasse. Par contre, celles qui sont en aménorrhée, elles sont autour de moins de 16%. Donc il faut à nouveau se situer par rapport à certaines normes. Il suffit de connaître les normes. Et là, on peut s'aider aussi de ce qu'on appelle la disponibilité énergétique. Donc vous allez voir la diététicienne, vous allez envoyer votre patiente à la diététicienne, vous allez poser la question de savoir ce qu'elle mange et comment elle mange. Et là, effectivement, pareil, il faut une diététicienne qui connaisse le milieu du sport. Quand on connaît le milieu du sport, il y a plus de j'ai beaucoup moins de problèmes, on sait de quoi on parle. Imaginons que votre athlète vous dise qu'elle mange 1700 calories par jour. Enfin, que l'interrogatoire alimentaire retrouve 1700 calories par jour. Bon, une femme sédentaire, 1700 calories par jour, tout va bien. Bah oui, mais il ne faut pas oublier que cette femme, elle va dépenser en plus par jour, liée à l'activité physique, 1000 kcal par jour. Donc sa disponibilité énergétique, la balance entre ce qu'elle apporte et ce qu'elle dépense, bah, il y a un déficit de 1000 calories. Donc en se situant effectivement dans le contexte sportif, on s'aperçoit que là, il y a pathologie. Et que là, effectivement, il faut essayer de modifier les choses. Alors, il faut y aller doucement, il faut connaître la sportive et connaître le milieu pour essayer d'améliorer les choses. Donc une fois de plus, les normes, on les a. Seulement, il faut qu'elle soit mise entre les mains de gens qui connaissent ces normes et qui sont adaptés au milieu. Examen clinique toujours, interrogatoire. Votre patient vous dit qu'il n'arrête pas, vous le voyez plusieurs fois, parce qu'il fait des infections des voies respiratoires répétées, c'est-à-dire rhinopharyngite, otite. Vous l'avez déjà vu il y a un mois, vous le revoyez 15 jours après pour un autre problème. Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il faut savoir qu'il est extrêmement fréquent de trouver chez les athlètes de haut niveau, en période d'intensification de l'entraînement, des infections des voies respiratoires supérieures. Et effectivement, le milieu scientifique connaît ce phénomène depuis longtemps et a essayé de trouver une relation entre déficit de l'immunité, entraînement, pour essayer de prévoir ces infections. Et on sait que certains ont développé ce qu'on appelle la théorie de l'open window, qui dit simplement, quand on fait un exercice peu intense, on augmente son immunité. Et qu'à l'inverse, quand on fait plutôt des entraînements intenses, eh bien après une phase d'augmentation de l'immunité, vous avez une phase d'immunosuppression transitoire. Et plus loin, Niemann a proposé une relation qui ressemble à cette courbe en J entre intensité de l'entraînement et risque d'infection des voies respiratoires. C'est très simple, c'est que quand vous êtes par rapport à un sédentaire, quand vous êtes soumis à un entraînement modéré, vous augmentez votre immunité. À l'inverse, quand l'entraînement devient intense, eh bien l'immunité effectivement diminue et vous avez un risque d'infection des voies respiratoires. Alors vous êtes le médecin, si c'est un médecin tout venant, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à son sportif, on va d'abord faire un bilan, au bilan qu'est-ce qu'on voit? Une VS normale, une NFS qui est une numération formule sanguine qui est normale, ou une petite leuconeutropénie. Si le médecin traitant ne connaît pas le sportif, ne connaît pas la biologie de l'exercice, il va dire, bon allez, vous levez le pied, vous arrêtez carrément, et puis je vous traite, alors, en espérant qu'il ne se trompe pas sur les médicaments qui sont interdits, on reverra le problème de la prise en charge. Eh bien, il a tort, parce qu'on sait actuellement que la leucopénie, la discrète leuconeutropénie, ça ne veut pas dire immunosuppression, c'est assez associé à l'intensification de l'entraînement. Et on sait en particulier, et ça c'est vraiment très important, c'est que actuellement, un, il n'y a pas de prédicteur du risque d'infection parmi les paramètres immunitaires. Hein, ce n'est pas en faisant une NFS, en mesurant des immunoglobulines très à la mode, des IgA, des IgG, de tout ce que vous voulez, qu'on pourra prédire la survenue d'une infection et que ce n'est absolument pas corrélé. Et surtout, il ne faut pas se planter non plus. Il ne faut pas non plus, par méconnaissance de ce qui se passe dans la biologie, de la biologie de l'exercice, c'est que l'augmentation de l'incidence des infections des voies respiratoires supérieures reflète simplement l'augmentation de l'entraînement et n'est pas un signe d'overreaching ou de surentraînement. Ça veut dire qu'il faut adapter l'entraînement, ça veut dire qu'il faut prendre en charge votre sportif, mais il ne faut pas non plus l'inquiéter en lui disant « voilà, il va falloir que tu lèves le pied alors qu'il a une compétition importante dans 15 jours ». Donc une fois de plus, il faut se situer dans le contexte, et quand on connaît le contexte, on a beaucoup moins de difficultés à adapter sa conduite à tenir en tant que soignant. Alors biologiquement, si on est dans la biologie, certaines fédérations, pas toutes, demandent la réalisation d'un bilan hormonal. Alors là, j'aurais dû mettre 4 points d'exclamation, parce que le problème, c'est l'interprétation qu'on en fait. Et là arrive le problème, et tu en parlais un peu, Serge, le gros problème des fausses croyances, l'impact du décalage des normes sur les croyances. En fait, pour beaucoup de gens, il y a des conséquences hormonales du sport intensif, et qu'en fait, il est normal, quand on fait du sport intensif, d'avoir des anomalies hormonales. Moi, je dis non. Un sportif en bonne santé doit avoir un bilan hormonal normal. Et la norme, c'est que tout soit normal. et qu'à l'inverse, un bilan hormonal perturbé, c'est vraiment là où on a les hormones de la contre-performance. Alors je prends un exemple extrême, c'est juste pour vous faire sentir le problème et la subtilité. Enfin, je veux dire, on a quand même un organisme qui est bien équilibré et on n'existe pas depuis quelques jours, on existe depuis des millions d'années et nos ancêtres étaient habitués à vivre non pas dans nos conditions surprotégées de température, d'apport alimentaire, mais dans des conditions où il avait à lutter tous les jours pour sa survie. Et on est toujours là, donc on est quand même capable de s'adapter à une dépense énergétique élevée. Alors je prends l'exemple de ce qu'on appelle l'hypothyroïdie fruste ou subclinique. C'est quoi ? C'est un tout petit truc, c'est une TSH augmentée, puis les hormones biologiquement actives, la T3, T4 normale. C'est ce que vous avez ici, donc des hormones qui sont efficaces, T3, T4, puis l'hormone qui contrôle tout ça, TSH, deux fois la normale. Vous allez me dire, bah oui, ça n'a aucune conséquence, bah pas de chance. Rien que cette petite perturbation, vraiment minime, parce qu'on appelle ça, vous voyez, fruste ou subclinique, eh bien ça va donner quoi ? Ça diminue la fréquence cardiaque maximale, alors que la consommation d'oxygène reste normale, donc la quantité d'oxygène distribuée par battement cardiaque est diminuée. Et puis bon, je ne vous explique pas les graphes, mais quand on fait un examen métabolique, eh bien on s'aperçoit que ces gens ont une dysfonction mitochondriale acquise. Alors je vous rappelle que la mitochondrie, c'est l'usine énergétique de votre muscle. Donc vous imaginez bien que quelqu'un qui a juste une petite hypothyroïdie fruste, cliniquement il n'y a rien, eh bien il a une diminution des capacités d'exercice. Donc comment est-ce qu'on peut concevoir que l'entraînement puisse induire des modifications hormonales, puisque déjà des toutes petites modifications subtiles vont diminuer les capacités d'entraînement. Donc, à l'exception de la testostérone, qui peut être baissée, qui peut être en dessous de la normale dans lequel l'entraînement en endurance, tout le reste doit être normal. Et donc, attention à ces fausses croyances, parce que le problème de ces fausses croyances, c'est que ça peut conduire à des traitements qui, eux, vont perturber l'homéostasie de vos sujets. Par exemple, il est assez classique d'avoir une testo juste en dessous de la normale chez des sportifs entraînés en endurance, il faut le savoir, ça n'a aucune conséquence, je ne vais pas rentrer dedans. Mais si vous avez un médecin, je dirais presque gourou, qui va dire « Oh monsieur, vous avez une testostérone basse, je suis sûr que vous êtes fatigué. » « Oh bah oui, en cherchant bien. Vos performances, elles n'ont pas un peu diminué. » « Oh bah oui, j'ai été bien meilleur, je pense que je pourrais être meilleur. » « Eh bien, j'ai la cause, la testo est basse, je vais vous traiter. » « Eh bien là, vous le voyez revenir dans 15 jours ou 3 semaines plus tard, et là, il va vraiment être fatigué. » Parce que là, vous allez avoir freiné quelque chose de physiologique, et là, vous allez vraiment à la pathologie. Donc, une fois de plus, il faut connaître les normes qui ne sont pas très différentes chez les sportifs par rapport au sujet sédentaire. Et en fonction de ça, eh bien, effectivement, adapter son traitement. Et attention à tous ces gens qui vont utiliser peut-être un flou d'ailleurs qui n'existe pas forcément, plus par méconnaissance, et s'infiltrer là-dedans pour créer la pathologie. Et même dans ce sens-là, il y en a beaucoup qui jouent là-dessus. Il y a des gens qui vous proposent le bilan biologique qui va prédire le surentraînement. C'est vrai que le surentraînement, ça fait peur aux sportifs. C'est souvent des mois, voire une année, voire plus, d'arrêt de la carrière sportive avec une difficulté à revenir à son niveau antérieur. Et il y a des gens qui vous disent, il vous faut un petit coup de SDHA diminué, petit coup d'urée augmenté, ils vous mélangent tout ça et ils ont le bilan qui va prévenir la survenue d'un surentraînement, je caricature, mais dans 48 heures, 3 semaines, 1 mois. Soyons bien clairs, et là je vous ai juste cité une référence sur une conférence de consensus européen à laquelle j'ai pu participer, il n'y a pas de diagnostic biologique du surentraînement, sinon on serait très bon. Mais ça n'existe pas, le surentraînement c'est un faisceau d'arguments, et ce qui prime c'est la clinique. Alors, on est toujours dans le bilan paraclinique, l'électrocardiogramme, les adaptations cardiaques. La question qui se pose, et qui nous a tous beaucoup angoissés, c'est quel est le retentissement du sport intense, pratiqué à un âge jeune, sur le développement cardiaque. Et effectivement, maintenant qu'on a beaucoup accès, grâce au travail des cardiologues, sur les données effectivement de l'ECG et de l'échographie cardiaque, qu'est-ce qui sort de tout ça ? Eh bien, c'est qu'en fait, le sport ne crée pas la pathologie, mais la révèle dans la plupart des cas. Alors, en fait, ce que l'on sait maintenant, c'est qu'effectivement, un entraînement intense peut donner une petite dilatation des cavités cardiaques, mais très harmonieuse, une petite hypertrophie ventriculaire, mais tout ça reste dans les limites de la normale. Et qu'il est extrêmement rare que l'entraînement induise une pathologie. Alors, je vais juste vous citer encore quelques exemples qui prouvent qu'il faut savoir de quoi on parle. Il est extrêmement... Alors, le CG des sportifs, en règle générale, il est normal. Dans 15% des cas, en moyenne, on a des petites anomalies. Alors, il y a deux types d'anomalies. Il y a des anomalies pas préoccupantes, puis d'autres qui le sont un peu plus. Par exemple, la bradycardie sinusale. Une fréquence cardiaque à 50. C'est fréquent chez les sujets qui courent en endurance. Nous, on en voit quelques-uns qui ont parfois des fréquences cardiaques à 30. Si vous ne savez pas que si vous avez un cardiologue qui ne connaît pas le milieu du sport, qui ne sait pas que votre sportif est quelqu'un qui fait de l'endurance, qui a une VO2 max élevée, il voit une fréquence cardiaque de repos à 30, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lui faire faire un halter et il va rentrer dans tout le cirque du bilan. En fait, ce qu'il faut faire, bien sûr, interroger son patient, le mettre à l'exercice, lui faire un test d'effort, voir que la fréquence cardiaque maximale augmente, et en ce cas-là, tout est normal. Donc une fois de plus, on ne va pas inquiéter le sportif parce qu'on a une mauvaise connaissance, il suffit de savoir à qui on s'adresse. C'est la même chose pour les blocs de branches qui disparaissent à l'exercice. Et dans certains cas, par contre, effectivement, on ne sait pas trop si on est dans l'adaptation ou dans la pathologie. Par exemple, des ventricules gauches un petit peu augmentés. Eh bien, dans ces cas-là, une fois de plus, on commence à avoir un faisceau d'arguments qui nous permettent de faire la différence entre un cœur d'athlète lié à une adaptation et puis la pathologie, qui est en particulier surtout la cardiomyopathie hypertrophique. Mais il faut simplement les connaître et donc être entre les mains d'un cardiologue qui connaît bien la cardiologie du sport. La seule question, par contre, à laquelle on n'a pas encore de réponse, et là, on parlait de la post-carrière, c'est que vont devenir ces cœurs d'athlète, en particulier ces hypertrophies ventriculaires gauches limites, une fois que la carrière sportive est arrêtée. C'est pour ça que c'est important de pouvoir suivre aussi les sportifs après l'arrêt de leur carrière. Et enfin, dernier volet, c'est la prise en charge du sportif de haut niveau. Donc on est un peu coincé sur la prescription médicamenteuse, et il faut faire très attention aux substances interdites. Le médecin doit faire attention, mais l'athlète, in fine, c'est lui qui prend le médicament, c'est lui qui est responsable. Il doit bien contrôler que les médicaments qu'on lui a prescrits ne sont pas sur la liste des produits interdits. Autre exemple de l'importance de connaître la physiologie de l'exercice, les troubles du cycle. La prise en charge, elle dépendra effectivement de la connaissance du médecin. Et si le médecin connaît l'importance de ces troubles du cycle et leurs conséquences sur l'os de la femme, les conséquences à moyen et à long terme, eh bien à ce moment-là, il pourra prendre en charge cette sportive et éviter de dire, comme je le vois encore trop souvent, « Madame, vous n'avez pas de règles, c'est normal, vous faites du sport ». Troisième exemple, la prise en charge des anomalies hormonales. Grâce effectivement à la Fédération française de cyclisme, avec Michel Guinaud qui est là, on a pu avoir accès, et ça c'est pas le cas de toutes les fédés, aux résultats du suivi médical longitudinal obligatoire. Et dans le cadre de ce suivi, avait été mis en évidence un nombre assez anormal, enfin assez élevé, de sujets qui avaient un cortisol bas, voire carrément effondré. Et donc, on avait montré qu'il existait une vraie freination de l'axe corticotrope. L'interrogatoire répété avait mis en évidence que cette insuffisance surrénalienne était liée à la prise de corticoïdes. Et ces corticoïdes étaient dans la plupart des cas sur prescription médicale. Et donc, en fait, on a conduit une autre étude qui a montré qu'en fait, cette prescription médicale, ces corticoïdes, c'était surtout des infiltrations intra-articulaires de corticoïdes. Et donc, sur un autre travail, on a montré que juste une infiltration chez un sujet sain de corticoïdes donnait une freination surrénalienne. Et bien, de savoir qu'effectivement, avoir un cortisol bas chez un sportif, c'est pas normal, que lui devra avoir un cortisol normal, a fait modifier la conduite à tenir de la Fédé de cyclisme, qui a donc défini officiellement une conduite à tenir devant des anomalies biologiques découvertes sur le bilan, avec une vraie prise en charge qui tenait compte des anomalies. Et à la suite de tout ça, d'ailleurs, la Haute Autorité de Santé va pas tarder à publier une mise au point sur la conduite à tenir vis-à-vis des corticoïdes chez les sportifs, parce que créer une insuffisance surrénalienne chez un sportif de haut niveau, surtout dans un sport à risque de traumatisme élevé comme le rugby ou le cyclisme, eh bien c'est le risque de voir se décompenser cette insuffisance surrénalienne et qu'il fasse une insuffisance surrénalienne aiguë lors d'un traumatisme aigu qui peut nécessiter une intervention chirurgicale. Donc c'est de la prévention et une prise en charge qui est un petit peu modifiée. Autre problème qui n'est pas assez soulevé, c'est le problème de la reprise après blessure. Prenons le cas des sportifs de haut niveau qui ont par exemple une ligamentoplastie du genou. Ils sont soumis à une rééducation très intense et très précoce pour justement pouvoir reprendre l'activité physique sportive très rapidement. Et la question qu'on se pose, enfin en tout cas les gens qui sont dans le milieu du sport, vous diront qu'on sait très bien que le pronostic à long terme pour les genoux, par exemple, de ces sujets, il n'est pas bon, parce qu'on sait que ce sont des gens qui sont à risque élevé d'avoir des pathologies arthrosiques à cause de cette intensification de la reprise après intervention chirurgicale. Donc, en fait, qu'est-ce que ça pose, tout ce que j'ai pu vous énumérer, ça pose aussi le problème des connaissances, du suivi. Ça pose aussi la question de savoir jusqu'à quand il faudrait suivre ces sujets. Il est clair qu'il faut les suivre. Mais c'est très important aussi de connaître leur devenir et d'insister sur la post-carrière. Comment va évoluer l'appareil locomoteur? Comment va évoluer leur adaptation cardiovasculaire? C'est des choses sur lesquelles on n'a pas encore la réponse et sur lesquelles on a besoin d'avoir des éléments sur le devenir des athlètes de haut niveau. Donc, en conclusion, je crois que chez le sportif de haut niveau, le problème, c'est pas les normes ou pas les normes. En fait, les normes, le sportif, vous avez vu sur le plan clinique et biologique, il est comme tout le monde. Il a des petites modifications, mais qui sont dans les limites de l'adaptation. C'est dans la norme. En fait, on a de plus en plus de données grâce effectivement aux données du suivi médical longitudinal, avec un petit bémol parce que toutes les fédérations ne jouent pas le jeu et ne restituent pas ces données, avec probablement les données que nous donneront l'IRMES. Donc en fait, les normes, on les connaît. Le gros problème, c'est la bulle, c'est-à-dire cette coupure des athlètes avec le monde normal, où on leur dit vous êtes anormal, vous n'êtes pas comme les autres, parce que ça, effectivement, ça laisse l'entrée à tous les gourous, à tous les gens qui vont interpréter les incertitudes sur les normes, effectivement, comme le disait Serge, mais c'est valable aussi pour les soignants. Voilà, là, il y a des petites anomalies. Bon, c'est pas normal, ces anomalies, et moi, je vais vous proposer le traitement, ça peut être du magnésium, ça peut être des micros, tout ce que vous voulez, ou alors carrément des substances qui peuvent être dangereuses pour le sport. Et en fait, tout cela souligne l'importance d'une prise en charge du sportif par une équipe multidisciplinaire. On ne peut pas être bon dans tous les domaines et de sujets qui connaissent bien la médecine et la physiologie de l'exercice. Voilà, je vous remercie.
Alors, deux petites précisions avant de vous passer la parole. La première, c'est qu'effectivement, sur les cœurs d'athlètes, ce que l'on voit apparaître n'est pas tellement de l'ordre de la fibrose ventriculaire, mais surtout à l'étage auriculaire, c'est-à-dire qu'on va déclencher dans un nombre important de cas, sur beaucoup plus précocement par rapport à la population normale, des fibrillations auriculaires, donc des situations où le cœur se met en arythmie. Et ça, c'est un des contextes sur lequel Michel Essaguer, ici à Bordeaux, est un des grands spécialistes et les a vus apparaître depuis qu'on suit un petit peu de façon plus précoce cet aspect-là des conséquences de l'entraînement de haut niveau. L'autre point, c'est celui effectivement de la norme sur lesquelles il faut aussi tenir compte contexte, mais aussi du contexte génétique de l'athlète, et on voit que petit à petit on a sélectionné une espèce de clustering dans le 20e siècle au fur et à mesure du développement et de la spéciation intra-espèce au profit des athlètes les plus capables et génétiquement au départ les plus capables de courir vite, de courir longtemps, de sauter haut, de développer une capacité stratégique. Ces articles-là commencent à sortir et on voit la différence se mettre, donc va impacter sur les normes, y compris sur les normes de la récupération ou de l'inflammation, sur lesquelles on n'a absolument aucune connaissance actuellement, et de fait va devoir petit à petit s'intégrer sur ce que représente ce groupe meilleurs, sur le groupe des plus hauts, sur le groupe des plus rapides, etc., et définir petit à petit ces normes en fonction de la révolution. Quelles sont vos questions sur cette partie tout là-haut ?
On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les sportifs de haut niveau sont dans une bulle, on l'a vu hier très très bien, et c'est vrai qu'on le vérifie tous les jours quand on a la chance de rencontrer des sportifs de haut niveau. Le gros problème, c'est que la question que je me pose et que je vous pose, c'est que comment vont devenir ce que vont devenir ces sportifs de haut niveau. Alors certains arrivent à bien gérer leur vie d'après, je parle au niveau physique et psychologique, d'autres ont beaucoup plus de problèmes et deviennent de véritables, et si vous me permettez l'expression, boulets pour la société. Je voudrais savoir comment on peut faire, nous, en tant qu'éducateurs, en tant qu'entraîneurs, pour éviter ce problème-là.
Moi, je donnerais juste une petite part, parce que je suis quand même la moins bien placée pour en parler. Peut-être que je pourrais laisser en parler Serge. Mais d'abord, c'est effectivement bien avant la fin de carrière d'envisager la fin de carrière et la reconversion. Et par exemple, au niveau, je parlais de ce que je connais, c'est-à-dire au niveau médical, par exemple, les problèmes de prise de poids. Parce que le problème d'un athlète de haut niveau, c'est qu'il a une dépense énergétique. Enfin, le problème, il est soumis à une dépense énergétique élevée, à des flux métaboliques élevés. Généralement, quand il s'arrête, il ne fait pas semblant, quoi. Il s'arrête. En plus, faire de façon amateur son sport ne l'intéresse plus, ce qui est tout à fait anormal. Et souvent, effectivement, il est parfois suffisamment blessé ou cassé pour ne plus pouvoir avoir une activité physique modérée. Donc, il passe d'un état de flux métabolique et énergétique très élevé à un état de sédentarité complète. Et il y a très peu d'études là-dessus, mais il y en a moins deux, et qui montrent que ces sujets, en fait, en un an ou deux ans, qui passent de statut d'athlète de haut niveau avec une protection métabolique importante à un statut de sédentaire, et en un an ou deux ans, se retrouvent avec des facteurs de risque cardiovasculaire plus élevés que des sujets qui ont été sédentaires toute leur vie. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prévenir, prévoir sur le plan diététique, prévoir sur l'éducation vis-à-vis de l'activité physique ultérieure. Et tout ce qui est la prise en charge psychologique, bon, ça, je laisse Serge en parler, il en parlera beaucoup mieux que moi.
Très rapidement, sur la reconversion, c'est un chantier qui est aujourd'hui à peine ouvert. Il y aurait mille choses à faire. J'ai envie d'en citer qu'une. C'est une révolution culturelle dans le monde du sport qui, tout simplement, est structurée de son alpha à son oméga sur la performance. c'est ainsi. C'est absolument pas reprochable et condamnable. Ce système s'est construit autour de ça. À partir de là, quand vous performez plus, soit parce que vous êtes blessé, soit parce que vous ne faites plus partie du jeu, parce que vous avez arrêté, vous n'existez plus. Je caricature, je trace à gros traits exprès. Et qu'il faut, et c'est une vision française, hein, c'est pas une vision universelle, mais je pense que est en train d'opérer, de s'opérer un mouvement qui est extrêmement long et lent, où le sport va intégrer des valeurs qu'il exprime sans arrêt, qui sont des valeurs de construction de l'individu. Ce sont des discours qui sont extrêmement porteurs et portés par l'institution. Mais dans les faits, ce n'est pas si simple. Pourquoi ? Parce qu'on fait une confiance aveugle à la pratique elle-même. En gros, pour parler clair, il suffit de faire du sport pour que ça soit bon. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus. C'est un discours qui est certainement en train de se modifier. Je crois que ces journées en sont la preuve, parce qu'on se rend compte que faire du sport, par exemple, intensément, c'est pas bon, et qu'il faut mettre des garde-fous, qu'il faut mettre des suivis, qu'il faut mettre des pare-feux, qu'il faut mettre etc. Donc la pratique elle-même ne se suffit plus à répondre à ce discours qui est le socle idéologique de l'institution sportive. Et à partir de là, je pense que il y a peut-être une libération ou une ouverture, un abattage de cloisons. On sort de la simple logique de performance, ou peut-être on commence à apercevoir des sportifs comme des individus, et se mettre en place des systèmes, et ça sera très très long, qui vont peut-être, Jean-Yves, tu parlais de pensions comme les militaires, pourquoi pas, on va peut-être enfin mettre en place des choses qui déplacent un peu le focus, qui n'est plus la pratique elle-même, mais qui est l'individu. Moi, c'est mon souhait le plus cher, c'est garder toujours en mémoire, ça peut aussi être une façon, je ne l'ai pas abordé tout à l'heure, de régler ces questions éternelles et circulaires de la nécessité ou pas de prendre en charge, c'est garder toujours comme objectif premier l'épanouissement de l'individu, l'épanouissement de l'enfant. Voilà, ça peut être toujours un repère qui, à un moment donné, peut sauver bien des situations inextricables. Est-ce que la pratique est au service de l'épanouissement de l'enfant ? Fût-elle excessive, fût-elle pour nous irrationnelle, mais est-ce que ça fait partie d'un projet dans lequel l'enfant s'épanouit? Ça permet d'avoir un regard un peu différent. Et également, ne pas laisser, comme tu disais, décrépir des individus, parce qu'à un moment donné, ils ne font plus partie de cette logique de performance. Une formule très simple, l'institution sportive dépense un pourcentage que je ne connais pas, mais qui doit être extrêmement important, de ses moyens dans les filières de détection, qui doivent être de plus en plus efficaces, de plus en plus prégnantes, de plus en plus sélectionnantes. Je pense qu'elle serait bien inspirée de mettre en place des filières de reconversion qui accompagneraient l'individu, évidemment pendant sa carrière, parce que c'est une révolution culturelle. Parler à des jeunes rugbyman aujourd'hui dans les centres de formation de reconversion, tu te fais jeter. Absolument pas cette préoccupation-là. Et il faudra peut-être des générations pour commencer dans la carrière, à intégrer cette notion. Donc, des filières de reconversion qui construisent la carrière dans ce sens-là, dans le sens de la performance et dans le sens de la construction de l'individu, où il accepte l'idée que quand il aura fini à 30 ans, il aura encore au moins 50 ans à vivre et que c'est long, quand il ne sait pas quoi faire. Et qui va accompagner l'individu jusqu'à ses dernières étapes de carrière, avec des bilans de compétences, etc. Et qui va accompagner l'individu après sa carrière, alors sous forme de pension, sous forme d'autres choses. Voilà, des véritables filières de reconversion avec des acteurs de ces filières-là, comme il y a les filières de détection. On en est loin, mais il me semble, caractère optimiste, il me semble sentir à travers ces journées, à travers le discours qui est porté ça et là, le regard qui est porté sur, encore une fois, cette explosion de cette contre-vérité du sport santé dans le haut niveau, il me semble percevoir des raisons d'être optimiste. Mais en tout cas, nous, on sera peut-être plus là pour voir l'effet de cet optimisme.
Et j'ai l'impression effectivement qu'il faut être assez prudent sur le terme de pension, peut-être encore plus sur l'usage du terme boulet par rapport à ce qui a pu être reçu de la part de ces champions et de tout ce qu'on a investi sur le plan de l'imaginaire, sur le plan de ce qu'ils nous font vivre, de tout ce qui est le plan du sacré. Je crois que le mot que tu donnes d'autonomie et d'épanouissement est un des projets importants sur lequel vous avez eu encore hier une session importante, sur lequel petit à petit le double projet qui est inscrit aussi au sein de l'éducation dans le sport de haut niveau, en particulier dans les CREPS, à l'INSEP et dans les autres établissements, il y a quand même derrière une idée de cette autonomie derrière et une prise en compte en tout cas de la reconversion depuis pas mal d'années. Je ne sais pas ce que Patrick, tu peux nous dire éventuellement sur ce sujet-là, puisque tu es dans ce domaine et tu l'étudies depuis beaucoup plus longtemps encore. Mais je crois qu'il y a quand même une sensibilité particulière là-dessus qui est en cours depuis longtemps. Dernière question.
Bonjour, Philippe Lyotard, je suis sociologue à Lyon, à l'Université Lyon 1. C'est pas forcément une question, c'est une remarque. Enfin, j'aurais deux remarques. D'abord, le fait d'avoir les deux interventions qui sont enchaînées, ça nous amène à réfléchir à la question de la norme, notamment les normes qui étaient présentées par Martine Duclos étaient des normes qui relèvent des sciences médicales, des sciences biologiques. Et là, juste avant, Serge parlait complètement d'autre chose. Et le fait de parler de révolution culturelle, ça renvoie à quelque chose qui relève du social, voire de l'imaginaire. Donc c'est très compliqué. En même temps, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit comment on est amené à réfléchir sur ces différents registres. Le registre de l'organisme, le registre de l'individu, le registre du social. Et si on ne clarifie pas, on peut parfois être amené à être en difficulté dans les réponses qu'on tente d'apporter. Notamment, Martine, tu fais une remarque sur les fausses croyances. Il n'y a pas de fausses croyances, il y a des croyances. Et d'ailleurs, Serge l'a montré, c'est-à-dire que le fait de se faire masser à la pleine lune, c'est une croyance, elle n'est pas fausse, elle est. À partir de là, je comprends qu'il y ait des données qui soient objectives, objectivables, validées. En revanche, ces croyances existent. Et peut-être que les croyances des sportifs, y compris du plus haut niveau, par rapport aux exemples qui ont été présentés, c'est une façon de recourir à l'irrationnel qui est sécurisante dans un monde qui est hyper rationnel, et tu l'as montré. C'est-à-dire qu'on peut effectivement tout mesurer, on peut tout comparer, on peut aller chercher des normes dans des groupes spécifiques en tenant compte de l'âge, du sexe, du type de pratique, du type d'alimentation, etc. Sauf que le sportif, à un moment, son corps, son organisme, c'est une chose, mais il a besoin de se construire des repères, et ces repères, il va aller chercher où il peut, où il veut, peut-être même en allant à Belgrade, parce que on sait bien que c'est pas peut-être la dimension objective de la manipulation du coude, mais c'est quelque chose qui va être de l'ordre de la sécurité affective. Donc ça, je pense que c'est important parce que de ne pas s'opposer comme ça sur nos propres convictions pour arriver à dire au contraire, bon, là, il se passe quelque chose, je ne peux pas l'expliquer, qu'est-ce qui peut venir travailler avec moi pour qu'on l'explique ensemble.
Non, mais je suis tout à fait d'accord. J'ai peut-être été aussi pas assez clair, mais enfin, pour moi, ce que je disais, par exemple, dans le bilan biologique du surentraînement, je veux dire, un surentraînement, c'est avant tout un diagnostic clinique. Et le diagnostic clinique, c'est de prendre le temps d'avoir le sportif en face de lui. Moi, j'ai vu arriver une jeune sportive de haut niveau il n'y a pas très longtemps dans mon bureau. Je l'ai interrogée, c'était un diagnostic de surentraînement. Elle me venait avec une. J'avais 5 pages d'examen. Et elle est arrivée en me disant voilà, elle est surentraînée, il y a ça, ça, ça. J'ai pas regardé les examens, je l'ai interrogée. Mais je veux dire, l'interrogatoire, c'était évident. Elle préparait le bac, elle était hyper stressée, elle était en série scientifique, elle n'arrivait plus à suivre. Elle avait augmenté, enfin, l'entraînement était pareil. Je veux dire, mais j'ai discuté avec elle. Ce que je veux dire, c'est que les examens biologiques, ça ne me donnera jamais. Enfin, sauf qu'il y a une grosse anomalie, ça me rassure, moi aussi, en tant que soignant. Et après, moi, ça me permet effectivement de dire, là, ce côté-là, il n'y a rien d'inquiétant, je peux interroger mon sportif et je peux discuter avec lui, même en tant que soignant et non psychologue. Et la deuxième chose que je disais qui va tout à fait avec ce que tu dis, c'est prise en charge multidisciplinaire. Moi, toute seule, je ne peux rien faire. Et je serais bien meilleur quand j'aurais effectivement l'avis du suivi psychologique, l'avis de la consultation diététique, l'avis de l'entraîneur si je peux discuter avec lui, etc. etc.
Bien, merci. Je voudrais donc qu'on conclue maintenant sur cette séance et accueillir Isabelle de Mongeau.
Ben merci. Désolée pour le petit changement, mais c'est vrai qu'il y a des beaux moments de sport et je crois que cet après-midi, il faudra être présent. Et voilà, je suis désolée, mais j'avais envie vraiment de participer à la fête. Alors, justement, moi, je trouve que c'est très, très intéressant tout ce qui se passe. Et j'aurais bien, si j'avais pu participer hier aussi, ça m'aurait vraiment intéressé. Juste si je peux intervenir sur ce qui s'est un peu dit là, et on va arriver à mon expérience personnelle, c'est que je trouve que globalement, on n'est pas assez guidé. Quand on est sportif de haut niveau, quand on commence une carrière, je trouve qu'il y a une méconnaissance totale. Il faudrait qu'on puisse aider, en tout cas les parents, à un moment donné, à savoir s'ils emmènent leur enfant dans une carrière, si cette décision est prise, c'est de savoir donc, le choix de l'entraîneur, de savoir à un moment donné comment on choisit un entraîneur, pourquoi on choisit celui-ci et pas un autre, quels sont les critères. De même, quand on veut être accompagné par un médecin, alors moi, c'est vrai que le premier diagnostic, quand j'avais 12 ans, on m'a dit scoliose, il ne faut surtout pas jouer au tennis, tu vas, voilà, ce n'est pas la peine, il ne faut pas faire de sport. Bon, je suis partie sur ça, je me suis dit, bon, ce n'est pas grave, j'ai envie de continuer, voilà, c'était ma passion. Et je crois qu'après, c'est vrai qu'on peut tomber sur des phénomènes un petit peu particuliers, je l'explique bien dans mon livre, c'est qu'à un moment, on peut tomber sur des gens qui apparaissent à vos côtés et puis qui vont tout d'un coup totalement vous êtes sensible au discours. Et c'est vrai que vous pouvez tomber sur des charlatans, sur des gens qui vont vous faire faire n'importe quoi. Et j'ai failli tomber, moi, dans une secte, à penser que voilà, il y avait les extraterrestres, que... il y avait des choses qui existaient et que c'était à travers, si j'avais une douleur là, c'était à cause de ma mère, si c'était j'avais l'autre douleur là, c'était parce que j'avais pas résolu un certain nombre de choses. Bon, et c'est vrai qu'à un moment donné, on sait pas où on veut, où on peut, on sait pas trop, on n'est pas guidé là-dessus. Il n'y a pas un guide au départ en disant voilà, un médecin, son rôle c'est ça, un gastro-entérologue, son rôle c'est ça, un kiné. Alors l'ostéopathie, moi je me rappelle, je parle de l'époque, j'ai commencé à jouer au tennis en 77, et c'est vrai qu'il y a eu toute la période de l'ostéopathie. On me disait, oh là là, tous les médecins, non, c'est pas bon. Et puis finalement, on est arrivé à accepter aussi que ces gens fassent du bon travail et on a ouvert des portes. Et je crois que globalement, je trouve que tout le monde, finalement, on arrive à garder ces petits trucs pour lui tout seul, veut pas trop diluer l'information et c'est un petit peu dommage. Et puis il y a de nouvelles thérapies aussi. Donc je l'évoquerai au moment du livre. Et je crois que c'est là qu'il faudrait qu'on progresse. On a besoin d'être guidé. Je crois que c'est vraiment important. Donc si je reviens un petit peu sur mon expérience, je dirais que c'est un médecin en fait qui a tout déclenché. Je vais partir de là pour ensuite revenir sur le passé. Donc c'est en 2005 où j'ai rencontré un gastro-entérologue. C'était pas la première fois. Que je voyais un médecin de cette qualité-là, mais en tout cas, celui-ci, c'était la première fois. Et c'est vrai que tout peut changer en l'espace de 5 minutes quand on vous apprend que si vous avez des séquelles aujourd'hui, c'est dû à des abus sexuels que vous avez dû subir dans votre jeunesse. Et là, c'est vrai que quand cette personne ne vous connaît pas, c'est vrai que vous êtes là, vous ne comprenez pas comment c'est possible. Donc il y a des gens aujourd'hui qui ont toute cette expérience aussi pour guider en tout cas la patiente et puis après la victime, en tout cas pouvoir exprimer des choses. Et c'est de là où tout a commencé pour moi en 2005 puisque il m'a touchée profondément. Alors il m'a posé la question tout de suite de savoir si c'était mon père. Et j'ai dit non, c'était mon entraîneur. Et lui, moi à partir de là, c'est vrai que j'ai pas du tout supporté ce qu'il était en train de me dire. Et il me dit, mais cet entraîneur, est-ce qu'il est toujours en activité? Et je lui dis, oui, il est toujours en activité, toujours auprès de jeunes enfants. Je lui dis, oui, malheureusement, il est toujours. Et donc, à partir de là, il m'a dit, mais vous ne pouvez pas rester comme ça, il faut faire quelque chose. Et c'est vrai que de là, j'ai eu une puissance incroyable au plus profond de moi. Alors peut-être que, je ne sais pas, tout d'un coup, tout s'ouvrait, j'avais plus envie de garder tout ça pour moi. Et je me suis mise, j'ai tout de suite appelé un avocat et je me suis dit quels sont mes droits aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire. Alors je rappelle les faits, 77 j'ai commencé ma carrière, 80 j'ai subi les premières violences non sexuelles de mon entraîneur, jusqu'en 89, donc ça a duré 9 ans. J'ai pu enfin partir, quitter cette structure à cette époque-là. À l'époque, j'en ai fait part au président de la Fédération française de tennis, qui était Philippe Châtrier. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais pas les mots aussi. Je me suis peut-être pas assez bien exprimée. J'ai essayé de passer certains messages. Et puis après, ben, on essaie d'avancer. On essaie de. Bon, je me suis fait entourer par un psychologue qui m'a proposé ou de l'attaquer juridiquement ou de pouvoir au moins exprimer et de lui dire ce que je pensais et de me dégager de certaines choses. Et donc je reviens sur le contexte, c'est que en fait, au fur et à mesure de ces années où j'ai pu, ça a commencé donc en 80 où j'étais à Roland-Garros, c'était l'année où j'ai été championne de France 3e série. C'est vrai, ce qui se passe, c'est que on en arrive à penser que ça fait partie des règles du jeu pour vous amener au plus haut niveau, puisque c'était ma passion. J'avais envie d'être une des meilleures joueuses au monde, et que cette personne, à un moment donné, donc a fini par m'emmener dans un enfermement total, je pensais que c'était l'unique homme, en tout cas, qui pouvait m'amener au plus haut niveau. Et c'est vrai que je suis restée donc 9 ans dans le silence total. Je n'ai jamais pu exprimer quoi que ce soit. Faut rappeler que c'est un corps d'enfant face à un corps d'adulte. Donc c'est vrai qu'on est totalement inhibé, on est incapable de réagir. Et on accepte l'inacceptable. Et c'est vrai que bah, je gagnais, j'avançais. En 4-5 ans, j'ai été très rapidement parmi les meilleures joueuses françaises. Et puis c'est au moment où on commence à moins bien jouer, au moment où il y a des questions. Et finalement, mes parents qui m'ont plus ou moins amenée vers la sortie, sans que je puisse jamais m'exprimer vers eux. Il faut savoir que c'était un enfermement global, c'est-à-dire que je n'avais pas le droit de sortir, je n'avais pas le droit de ne rien faire. Pour aller au cinéma, il fallait que je demande son autorisation. Et mes parents me disaient, il faut demander à ton entraîneur si tu as le droit de sortir. Tout ça, à force, on en arrive à se dire que on n'est plus qu'un bras et une raquette. On est incapable de penser, on est incapable de pouvoir même lire, avoir un peu de lecture, donc je ne lisais pas. Je dois dire, pendant un certain temps, ça a été, c'est quelque chose que je créais même pas. Donc j'avais un peu de musique, j'étais sur les tournois, enfermée, à pas être trop au contact des joueurs. Alors aujourd'hui, beaucoup de joueurs de l'époque me disent, c'est dingue, on était tous là, on n'a rien vu, mais on voyait bien qu'il y avait des comportements bizarres qui font que on parlait à personne, on n'était pas ouvert vers l'extérieur, on n'avait pas le droit de s'ouvrir vers l'extérieur, on n'avait pas le droit de parler aux autres, on n'avait pas le droit de rencontrer des entraîneurs, des expériences, on n'avait pas le droit d'évoquer un certain nombre de choses. Et donc, finalement, à un moment donné, vous dites, c'est la seule personne qui peut m'amener au plus haut niveau. Et puis, s'il y a quelques joueuses autour de vous qui ont aussi des résultats, du coup, vous dites, il n'y a pas le choix, il faut passer par là. Donc à partir de là, après, je dirais que moi, à l'époque, ce qui m'a empêché totalement de pouvoir aller, en tout cas, à passer à l'étape juridique d'attaquer donc cet entraîneur, c'est que j'avais perdu tellement confiance en moi, j'étais tellement, vide, j'avais le corps en mille morceaux, Je sentais plus rien, j'avais des sensations de corps vide, de corps froid. À partir de là, c'est vrai que c'est dur de se dire que il faut continuer une carrière, puisque à l'époque j'étais encore au plus haut niveau, et on se dit qu'il faut en même temps entamer une procédure judiciaire, et donc c'est l'Himalaya, et je me suis pas du tout sentie capable de pouvoir le faire. Et donc on se sent seul, parce que de toute façon, pendant 9 ans, j'ai été seule dans ce calvaire. Et de nouveau, on se sent encore seul pour faire la démarche de passer à l'étape, en tout cas, juridique. Donc à partir de là, ma première étape, ça a été de me dire, je ne vais pas y arriver, mais par contre, j'irai lui dire ce que je pense, ce que j'ai pu faire. Ensuite, j'en ai informé les instances fédérales, comme je vous ai dit auparavant, entourée de quelques joueuses françaises. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'oublier, on essaie de passer à autre chose, on essaie de bâtir notre vie un petit peu différemment. C'est vrai que j'avoue que dans ma vie personnelle, j'ai pas pu avoir après de relations normales avec des hommes. Donc le choix de l'homosexualité, Il n'est pas de mon propre ressort, hein. Il est de par rapport à ce que j'ai subi. Et c'est vrai que là, on se confronte à des difficultés, la famille qui n'accepte pas un certain nombre de choses, et on se trompe de combat, en fait. Et donc, on finit par vouloir partir, quitter tout ça et renoncer à tout, et puis se dire que tout le monde est moche, tout le monde est méchant, tout le monde et personne peut vraiment m'aider. Et la famille du tennis, finalement, elle n'a pas fait grand-chose non plus, donc on essaie de s'en écarter. Et donc, on continue toujours ce système d'enfermement, de bulle, où on s'en sort pas. On s'en sort pas. Alors, on a de l'amour. Moi, je me rapproche d'une femme avec des enfants, avec une famille. Donc ça fait du bien. Et puis, un jour, ça se réveille par ce médecin qui a tout changé. Et tout d'un coup, je me dis, j'ai recréé au fur et à mesure de ces années une dépendance totale. Je guide pas ma vie comme je le souhaite. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie de me libérer. Et à partir de là, tout s'est déclenché. Et c'est vrai que l'écriture m'a beaucoup aidée. La personne qui m'a accompagnée dans ce livre m'a suivie pendant 4 mois. Durant ces 4 mois, elle m'a accompagnée sur tous les lieux où ça s'était passé. Elle m'a permis de re-rencontrer certaines personnes qu'elle a écoutées. Et à partir de là, je crois que ça a été vraiment un travail de fond. Je suis repartie faire une thérapie à ce moment-là. Mais je suis allée plus loin vers le MDR. J'ai fait aussi de l'hypnose pour aller chercher au plus profond de moi. Parce que dans ces entretiens qu'on avait, certains pouvaient dire « Oui, mais est-ce que par hasard, tu n'aurais pas été amoureuse ?» Et c'était des amis proches. Et donc, je me disais, ça, c'est pas possible. Donc, je me suis questionnée jusque-là. Donc, j'ai revécu des choses fortes, des choses graves. Et à partir de là, je suis vraiment allée chercher tout ce que j'avais au plus profond. Et ça a été essentiel, en tout cas, aujourd'hui. Et je considère que dans toutes ces étapes, le message un peu vers les victimes, c'est à un moment donné, je crois qu'il faut accepter ce statut de victime. Il faut le comprendre. Il faut comprendre pourquoi tant d'années. Alors, on peut se questionner, 9 ans, c'est énorme. Mais 9 ans, moi, je ne les ai pas vus passer en tant que 9 ans. J'ai peut-être vécu 4 ans en 9 ans. Parce que c'est cyclique, parce qu'on refait les mêmes compétitions, on enchaîne les tournois, c'est toujours les mêmes. On voit toujours les mêmes gens. Donc, j'ai été championne de France en 89, quelques mois avant de... Donc, juste après de l'avoir quitté cette structure. Quand je revois tout ce film-là et que je revois les articles de presse, parce qu'il a fallu que je me penche sur tout ça, j'avais l'impression que j'avais gagné ce championnat de France à 18 ans, alors que c'était à 22 ans déjà, quoi. Donc ce phénomène-là, on l'a vu, je crois que c'était Mauresmo il y a quelques temps, quand on lui fait le bilan de l'Open d'Australie, les 10 ans qu'elle a passé à l'Open d'Australie, si elle pouvait évoquer ses différents résultats. Je crois que ses résultats d'il y a 2-3 ans, déjà, elle savait plus ce qu'elle en avait fait, quoi. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on finit par occulter totalement. Et de là, je dois dire que ce qui m'a aidée aussi, c'est de ne pas être seule aussi, bien évidemment. Alors j'ai pensé l'être quand ça se passait. J'ai eu en fait la chance, après avoir appelé cet avocat qui m'a dit « Tu es prescrite, tu as 20 ans, tu ne peux plus rien faire ». J'ai eu la chance dans mon parcours de revenir un petit peu sur les lieux, sur Saint-Tropez. Et de là, j'ai re-rencontré des filles de l'époque. Et c'est comme ça que je me suis aperçue que j'étais pas la seule. Et à partir de là, j'ai eu la chance de rencontrer un gendarme exceptionnel qui m'a écoutée pendant à peu près 2-3 heures. Je lui ai tout raconté. Et il m'a dit, Isabelle, il faut y aller. Moi, je t'aiderai. Maintenant, il faut écrire. Il faut faire une lettre au procureur. Il faut pas que tu aies peur. Il faut y aller. Il faut que tu trouves... Tu vois, avec les autres victimes que tu as trouvées toi-même, parce que finalement, j'ai fini par faire ma propre enquête pendant 3 mois. C'est moi qui ai appelé les filles en disant, voilà, tu te rappelles de moi, comment tu vas, quelle est ta vie. Et aujourd'hui, on est 13 victimes quand même. Donc, 11 prescrites et 2 non prescrites. Et grâce à ces 2 non prescrites, on ira peut-être à une condamnation. Enfin, c'est pas pour demain, puisque ça prend du temps. Voilà, mais... voilà, je crois que s'il y a des questions, je suis prête à répondre.
Bon, Voilà, je suis Béatrice Aucouturier, je suis enseignante d'éducation physique à l'université sur Bordeaux. Je suis particulièrement concernée aussi parce que le discours d'Isabelle, parce que j'enseigne aussi dans le cadre du tennis. Et je fais encore un petit peu de compétition. Et dernièrement, j'étais relativement surprise de rencontrer énormément de jeunes entre 12 et 15 ans qui sont déscolarisés et qui choisissent déjà de s'orienter vers une filière pré-professionnelle. Et donc, la question, j'aurais souhaité la poser hier, on n'a pas eu le temps, et c'était concernant justement le suivi de ces jeunes qui choisissent souvent des filières privées, donc comme a pu le faire Isabelle, soit par l'intermédiaire d'entraîneurs isolés ou de structures sport-études privées, voire même éventuellement des pôles. Quel était le suivi de ces joueurs et joueuses plus particulièrement, donc au niveau santé, psychologique, enfin dans leur ensemble. Voilà.
Alors, d'une manière très générale, quand ces jeunes sont sur les listes de haut niveau, filières de haut niveau, je vais répondre de manière très administrative, ils sont soumis au suivi classique, médical et psychologique. Mais une fois que j'ai dit ça, je dirais que ça ne suffit absolument pas parce que ce sont des enfants, et vous le soulignez, qui vivent dans des conditions... on reparle du thème du colloque, hein, tout à fait surprenante, anormale, avec une très grande majorité de scolarisation à distance par le CNED. Et donc, le CNED qui est très efficace au niveau de la scolarité, qui est plutôt fait pour des gens qui vivent à l'étranger d'ailleurs, ou des gens qui ont des conditions sociales qui ne permettent pas la scolarisation, mais qui est tout à fait, à mon sens, psychologiquement inexistant et insuffisant sur d'autres aspects qu'à l'école, qui sont la socialisation, qui sont la construction de l'individu au sein d'une société qui a ses propres normes. Et effectivement, Isabelle l'a rappelé tout au long de son témoignage, il y a autour de ces enfants une logique d'isolement majeur qui est positivée avec l'entraîneur, avec les parents, parfois c'est évidemment la même personne. En tant que soignant et avec l'équipe, ce sont des choses qui nous posent énormément de questions. J'essaye de me remémorer qui hier, je crois que c'est Makis qui parlait, non, si, de groupe de parole, de parents, c'est toi qui parlais. Alors, on a été intéressé par ce propos parce qu'on aimerait effectivement... Enfin, on réfléchit et on aimerait pouvoir mettre en place ce genre de dispositif. Nous avons le sentiment, pour parler clairement, nous avons le sentiment que c'est une population extrêmement vulnérable. Peut-être à tort, peut-être là aussi on projette nos propres constructions sur un milieu qui fonctionne depuis longtemps. Le témoignage d'Isabelle est effarant et montre que peut-être on n'a pas trop tort de se poser des questions. Mais c'est un milieu qui a mis en place des normes d'éducation, de construction... de jeunes enfants qui ne posent, que, nous semble-t-il, que peu de questions à la filière elle-même et qui interrogent en tout cas beaucoup de monde autour. Voilà. Donc c'est un sport qui alors en plein Roland-Garros, c'est tout à fait mal à propos, comme dirait le journaliste sportif, et politiquement tout à fait incorrect. Mais c'est vrai que ça fait partie des sports à carrière extrêmement précoce, comme la gymnastique féminine, où l'enfant devient l'objet d'un parcours tout à fait singulier, et je crois qu'il devrait se questionner en permanence. Donc ils ont un suivi classique, mais qui est certainement bien insuffisant au regard de leurs conditions singulières de pratique. Et où je suis encore plus critique, et là envers nous-mêmes, c'est que nous obéissons comme de vrais petits soldats républicains aux lois, et les lois ne concernent que les sportifs de haut niveau ou les jeunes en filière d'accès. Alors, avec le concours de la DRDJS, du conseil régional, ici, on essaye d'écarter ces cloisons, d'aller chercher tous ces jeunes qui sont hors pôle, hors filière, et qui ont des pratiques tout aussi intensives, avec beaucoup moins de conditions favorables d'exercice, mais c'est difficile. Je ne citerai qu'un cas, qui est encore un cas, j'allais dire, protégé, ce sont les centres de formation des sports professionnels, qui sont pour la plupart pas des sportifs de haut niveau, mais qui sont dans des logiques de pratiques intensives et qui bénéficient pas des mêmes choses. Et encore là, on est dans des structures. Donc la loi ne protège évidemment pas tout le monde. Et tous ces jeunes qui sont pas de haut niveau ou dans le haut niveau ou dans des structures, alors là, c'est... Voilà.
C'est vrai que, bon, moi, je rappelle, c'est peut-être pour cela que personne n'a réagi aussi à l'époque. C'est parce que j'étais dans une structure privée et qu'on considérait qu'on pouvait pas faire grand-chose en tous les cas. Bon, faut quand même savoir que cet entraîneur a continué d'exercer sans diplôme. Il n'a toujours pas de diplôme aujourd'hui. Donc ça, c'est pas acceptable du tout. À un moment donné, je veux dire... voilà, tout ça, ça ne doit plus exister. Et des cas, enfin, ce qui sera dangereux, ce qui reste dangereux, c'est des cas isolés comme celui-ci, des cas privés, mais pratiquement des hommes qui vont peut-être rester toujours tout seul, quoi, seul à exercer, en tout cas, sans qu'il y ait personne autour. Parce que moi, je demandais à un moment donné de pouvoir être entouré, encadré peut-être de quelqu'un qui aurait pu nous faire travailler sur le mental, de quelqu'un qui pouvait s'occuper du physique. Non, il souhaitait tout gérer lui-même. Donc ça, c'était vraiment sa condition, c'est de rester le seul maître à bord de tout ça pour totalement diriger tout de l'emploi du temps tennistique et personnel, quoi. Dans les victimes de mon affaire, il y en a certaines qui ont même pas, qui étaient de simples joueuses de tennis, qui n'étaient pas du tout sur une filière au niveau au départ, et qui ont été touchées quand même par le phénomène. Et même, elles pensaient être touchées parce qu'elles n'étaient pas bonnes, justement. Elles pensaient qu'elles devaient passer par là parce qu'elles ne gagnaient pas des matchs et il n'y avait pas de performance. Donc, je veux dire, ça touche tous les niveaux, quoi.
Quelques précisions. Je rappelle qu'il y a des conventions d'objectifs entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, Santé, Jeunesse et Sports, et les fédérations sur le suivi médical, que dans le cadre de ces conventions d'objectifs et le parcours d'excellence sportive, qui est un avenir dont nous, sur le plan médical, on a beaucoup d'espérance, justement, puisqu'il va intégrer les structures privées au même titre que les pôles qui sont labellisés. Donc là, il faut vraiment appuyer assez fort pour que ces structures soient intégrées dans le cadre du suivi, et c'est dans ce cadre-là que votre témoignage peut être un appui fort pour intégrer ces structures privées. Sur ce que vous venez de dire là, concernant les filles qui n'étaient pas dans le suivi du haut niveau, ben, je rappelle que c'est, a priori, c'est l'entraîneur qui est du haut niveau et c'est la structure. Donc même si elles n'étaient pas sur des listes de haut niveau, il y a une réflexion à porter, c'est ce qu'on fait en Aquitaine, justement, sur ces sportifs qui ne sont pas encore sur liste et qui ont besoin aussi d'un suivi. Donc, plutôt que de parler de sportifs de haut niveau, je pense qu'il vaut mieux parler de structures de haut niveau. Il y a peut-être une réflexion à faire là-dessus, sur intégrer un suivi de haut niveau sur les structures plutôt que sur le sportif lui-même, sans quitter les listes, bien sûr, parce que c'est obligatoire d'avoir un listing pour pouvoir visionner les athlètes. Donc ça, c'était une piste de réflexion qui est assez forte sur les pôles, sur ces structures d'excellence sportive, et appuyer pour que le privé y participe aussi, et surtout que les fédérations, dans le cadre des conventions d'objectifs, assurent bien leur mission qui a été déléguée par l'État de suivi médical.
Donc Frédéric Allaire, médecin de santé publique à la DRAS des Pays de la Loire. J'ai été émue par votre témoignage que j'entends pour la première fois. Ce qui m'interroge, peut-être, c'est l'absence des parents. J'aurais voulu avoir votre avis. Ces 11 parents de joueuses, est-ce qu'ils se sont laissés embobiner dans cette secte? Enfin, comment ils n'ont pas détecté la souffrance que vous pouviez vivre?
Ben, c'est clair que j'ai envie de dire qu'à l'époque, moi, j'en ai vu beaucoup partir. Toutes n'ont pas subi ça pendant autant d'années. J'en ai vu qui sont partis du jour au lendemain. On ne savait pas. Tout d'un coup, elle avait disparu. Les parents étaient venus la récupérer. et les parents étaient incapables de dire des choses, sûrement. Moi, concernant mes parents, je dois dire que j'en ai discuté un certain nombre de fois. J'ai pu vraiment discuter dernièrement en 2005 parce que j'ai vraiment expliqué tout ce qui s'était passé. Donc tout ça, il a fallu énormément de temps pour que ça puisse sortir aussi de moi, en expliquant vraiment les âges et le temps et comment ça s'est passé, où ça s'était passé. Et je crois qu'en fait, oui, ils finissent par tomber dans le même phénomène où ils sont complètement, ils font une totale confiance à l'entraîneur. Ils ne voient que par lui. Et puis ça marche. Donc bien évidemment, il y a des résultats. Donc c'est ça le problème, c'est qu'en plus ça marche. Et qu'à un moment donné, ils sont, au début, ils étaient assez présents et puis ils sont de plus en plus absents parce qu'il y a de déplacements importants. Encore une fois, moi, j'ai jamais pu l'exprimer, j'ai jamais pu dire à un moment, voilà ce qui se passe réellement. Donc je rentrais, j'étais dans un état pas possible où j'avais qu'une envie, c'était d'aller me doucher, de me nettoyer, de laisser passer et puis de rester dans mon silence. Et ma mère me voyait pas bien, me disant mais qu'est-ce qui se passe, parce que je l'explique bien dans mon livre, c'est que j'avais aussi un caractère quand même assez rebelle, donc c'est assez surprenant. On peut dire que certaines ont réussi à le repousser, certaines ont réussi à fermer la porte, certaines ont réussi à s'opposer, certaines ont eu la chance d'avoir un frère à côté d'elle ou un petit copain déjà à l'époque, donc ce qui faisait que c'était si tu me touches, mon petit copain il va te casser la gueule, quoi. C'était pas mon cas. Pourtant, j'avais deux frères, une sœur, mais qui n'étaient pas plus trop présents au sein de la famille. Enfin, ils n'étaient plus à la maison. Et c'est vrai que j'explique bien aussi. Plus ou moins, à un moment donné, moi, je prenais beaucoup de place finalement dans cette famille. J'étais la petite dernière. C'était pas simple non plus, quoi, pour tout le monde. Donc, il se passait, les années passaient, j'avançais. Tout le monde était plus ou moins fier, mais. Et puis, on voyait mon comportement vis-à-vis de lui où je me laissais pas faire non plus, quoi. Je veux dire, dans le discours, dans le jeu. Et c'est là où, après, je trouve que ce qui fait le plus mal, c'est ça, c'est d'avoir pris conscience bien trop tardivement qui m'a empêché de m'épanouir sur un court de tennis. C'est-à-dire que cet enfermement, après, je le recrée au sein du match. Peut-être que, sûrement, inconsciemment, j'ai peut-être perdu des matchs parce que j'en voulais. Donc, je veux dire, après, il y a plein de choses qui se passent. Et c'est vrai que je dois dire que les parents, aujourd'hui, ça a changé quand même. Moi, je sais qu'avec ma mère, j'ai jamais parlé d'aspect sexuel et tout ça. J'ai jamais eu, à un moment donné, de toute façon... Donc, ça nous était interdit. On n'avait pas le droit d'avoir un petit copain, pas de sortie. Donc, de toute façon, à aucun moment... Après, c'est l'éducation qu'on a pu avoir aussi. Moi, je repars après sur des grands-parents qui étaient... mon grand-père et mes grands-pères étaient policiers. Donc, sûrement une éducation à la dure. Et à un moment donné, donc, ce que j'ai vraiment voulu faire à travers ce témoignage, c'est... Je voulais pas faire un règlement de compte, quoi. Je me suis dit, j'ai pas envie d'en reprendre encore une sur la tête. J'ai envie d'expliquer ce qui se passe réellement. J'en veux à personne. J'en veux à l'agresseur. Mais pas à tous ces gens qui étaient autour. À partir du moment où la victime ne peut pas s'exprimer, c'est vrai que, à un moment donné, c'est peut-être difficile. Et puis on a peur. Et puis après, on a peur des conséquences. Parce que, c'est vrai que derrière, il pourrait se passer des choses. Moi, je vis toute seule. Je pourrais subir des dépressions. Et tout ça, ça fait peur. Moi, je me suis retrouvée à toutes ces victimes qui se sont déclenchées au moment où cet homme a été arrêté. Elles sont venues, elles ont appelé, elles m'ont dit voilà, moi je veux porter plainte aussi, mais comment ça se passe, quelles sont les conséquences, ça fait peur d'appeler la gendarmerie, ça fait peur de. Et c'est tout ça qu'il faut qu'on améliore. Et c'est ce qui est en train de se faire. Donc ce que je voulais quand même finir, c'est important, c'est que mon livre est sorti en juin dernier, et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai souhaité l'envoyer au président de la République, à Roselyne Bachelot et Rachida Dati. Et 2 heures après, j'avais un coup de fil de l'Élysée qui me demandait de rencontrer le président. Et je me suis retrouvée trois semaines après à l'Élysée en train d'évoquer tout cela. Et c'est vrai que je dois dire que ça a bougé. Ça a fait bouger des choses. Le 20 juillet, on a annoncé un programme de lutte avec des groupes de travail. Il y en a certains qui sont là. des gens extraordinaires qui ont suivi tout ça, qui ont essayé vraiment de réfléchir, Sabine, qui était aussi très présente. Donc voilà, on a avancé avec une annonce dès le 22 février, avec un numéro pour ces victimes. Elles peuvent appeler maintenant, sachez que tout le monde peut appeler le 08 victime, elle va être accompagnée au niveau thérapeutique, au niveau juridique. On va créer un module de formation vers les encadrants, donc je crois que ça c'est essentiel, donc c'est une révolution. Donc moi je trouve que vraiment il se passe quelque chose. Il y a eu une charte éthique donc, qui a été signée par le président du CNOSF, qui a été signée par toutes les fédérations par la suite. Voilà, on a avancé sur tous ces points-là, une communication, une campagne d'affichage pour que la parole se libère. Et voilà, donc après, je me dis, ben, on a super, super avancé. Il y a encore beaucoup de travail, bien évidemment, parce que j'étais au contact de toutes ces expériences d'associations, de gens qui traitent aussi sur l'enfance maltraitée, l'inceste et tout ça. Et je crois qu'il y a des gens qui ont beaucoup réfléchi déjà sur tous ces aspects-là. Mais l'important, là, c'est qu'on est en train de toucher... Bon, le monde du sport est organisé, il y a des clubs, il y a des licenciés, et si on touche déjà tous ces gens-là qui font du sport, si on les sensibilise, si on les informe, mais sans se dire qu'on est en train de faire peur, non, on est en train de rassurer. Moi, si je suis parent et que j'ai un enfant, je me dis, punaise, ça y est, maintenant, ils seront formés, ils seront capables de pouvoir encadrer mon enfant le mieux possible. On n'est pas en train de faire peur, là. On est en train de se dire, voilà... Maintenant, on inverse les choses. On inverse aussi la peur, parce que toutes les peurs que j'ai eues, c'était pas les miennes, c'était aussi celui de mon entraîneur. Mais après, la peur de la victime, il faut qu'elle soit inversée. Maintenant, c'est l'agresseur qui doit avoir peur. Il doit y avoir des condamnations. Là, ça doit être très clair et net. Radiation à vie. Et à partir de là, bah, je crois que ça va permettre à beaucoup de se libérer. Et puis, alors, peut-être qu'il y aura un moment où il y aura beaucoup, beaucoup d'affaires qui vont sortir. Mais tant mieux, parce qu'on aura fait un certain nettoyage, quoi. Voilà.
Je voudrais qu'on clore ici le témoignage d'Isabelle. Le débat reprendra cet après-midi, et toute l'après-midi est dédiée à ce débat, donc qui est riche. Je voudrais qu'on remercie une dernière fois Isabelle pour ce témoignage et sa venue ici.